Volume 4, Les œuvres de George Fox, livres doctrinaux et suite préface de l'éditeur du site. Peu après que le roi Charles y eut remplacé le lord protecteur Oliver Cromwell, 31 fanatiques religieux, les hommes de la 5e monarchie, tentèrent d'établir le royaume de Jésus par la Révolution, en criant « Le roi Jésus et les têtes sur les portes », ce qui mit tout Londres en terreur. Ils mirent en déroute la milice, forcèrent la garde du corps du roi à battre en retraite, franchirent les portes de la ville, tuèrent 20 hommes et amenèrent chacun à croire qu'ils étaient au nombre de 500, tandis que chaque chef de foyer s'armait et que 40 000 hommes se tenaient prêts à s'opposer à ces farouches fanatiques. Cet acte de violence de ce petit groupe créa dans la nation une grande crainte à l'égard de tout groupe religieux dissident. Des rumeurs se répandirent rapidement selon lesquelles les Quakers étaient liés à ce groupe radical, ce que les hommes de la monarchie nièrent lors de leur procès au Parlement. Mais comme les Quakers grandissaient, les gens désertant de nombreuses églises épiscopaliennes, laissant celles-ci vides, le Parlement épiscopalien vit l'occasion de rétablir la suprématie de l'Église d'Angleterre en créant une loi rendant illégale toutes les autres églises, loi délibérément conçue dans l'espoir de détruire les Quakers. La loi ci-dessous est tirée de Christian Progress de George Whitehead. Certaines personnes sous le nom de Quakers, et d'autres noms de séparation, ont adopté et soutenu de nombreuses opinions et doctrines dangereuses, et entre autres que le fait de prêter serment en quelque cas que ce soit, même devant un magistrat légitime, est entièrement illégal et contraire à la parole de Dieu, et les dites personnes refusent chaque jour de prêter serment, bien qu'on le leur propose d'hume, par quoi il arrive souvent que la vérité est entièrement étouffée. Et attendu que les dites personnes, sous prétexte de culte religieux, s'assemblent souvent en grand nombre, en diverses parties de ce royaume, au grand péril de la paix et de la sûreté publique, et à la terreur du peuple en maintenant entre elles une correspondance secrète et étroite, et dans le même temps, en se séparant et se divisant du reste des bons et loyaux sujets de Sa Majesté, ainsi que des congrégations publiques et des lieux habituels de culte divin. Il est donc décrété que si 5 Quakers ou plus, âgés de 100 ans ou davantage, s'assemblent sous prétexte de se joindre à un culte religieux non autorisé par la loi, la partie contrevenante, reconnue coupable par verdict, avoue par l'évidence notoire du fait, encourra pour la première infraction l'amende imposée n'excédant pas 5 livres, et pour la seconde l'amende imposée n'excédant pas 10 livres, à recouvrer par saisie et vente des biens, et à défaut de biens, ou en cas de non-paiement dans la semaine suivant la condamne. Et si, après 2 condamnations, ils contreviennent une 3e fois et sont reconnus coupables, ils abjureront, seront bannis de leur royaume, où le roi pourra ordonner leur transport sur quelque navire que ce soit, vers l'une de ses plantations généralement en Jamaïque ou à la Barbade. Cette loi fut dirigée contre le peuple appelé Quakers, alors qu'on ne pouvait rien leur reprocher à juste titre et qu'aucun fait ne pouvait être prouvé, sinon ce qui concernait la religion et le culte rendu au Dieu Tout-Puissant selon leurs convictions de conscience. Ainsi, ce fut uniquement pour l'avoir servi et adoré selon nos consciences que nous avons beaucoup souffert un temps par cette loi. Ci-dessous se trouve l'acte d'accusation scripturaire de George Fox contre les hypocrites religieux qui ont promulgué cette loi, concernant la loi qui interdit que plus de 4 ou 5 puissent se réunir. Par George Fox, cette loi se serait appliquée au Christ et à ses disciples, s'il avait vécu de votre temps. On sait que le Christ eut 12 apôtres et 70 disciples, qui se réunissaient souvent, et outre cela, de grandes multitudes se rassemblaient auprès du Christ dans les villes, les déserts et les montagnes, au jour de César et des Juifs. Vous ne lisez pas que César ou les Juifs aient fait des actes ou des lois pour que le Christ et ses disciples ne se réunissent pas, bien qu'à la fin, par cette loi qu'ils avaient entre eux, ils le mirent à mort pour avoir dit qu'il était le Fils de Dieu. Les Romains, qui étaient païens, n'ont-ils pas laissé aux Juifs leur liberté d'adorer Dieu, lorsqu'ils avaient pouvoir sur eux, bien que leur religion différait de la leur, comme vous pouvez le lire tant dans les Écritures que chez Eusèbe et Joseph. Oui, les chrétiens en Bretagne n'ont-ils pas eu la liberté et vécu paisiblement jusqu'au temps de Dioclétien, et vécu assez tranquillement, bien que leur religion différait de la religion des païens de ce pays, et au temps de Dioclétien beaucoup furent persécutés à mort à Lichfield et à Leicester, mais considérez quelle fut la fin de son pouvoir. Beaucoup n'ont-ils pas souffert la persécution environ 600 ans après le Christ, par Augustin le moine, lorsqu'il apporta son bissac de cérémonie, et il fit détruire beaucoup de Bretons parce qu'ils ne voulaient pas se conformer aux cérémonies qu'il avait apportées de Rome. Les enfants d'Israël, bien qu'en captivité en terre étrangère, n'ont-ils pas eu la liberté dans l'empire de Nebuchadnetsar, bien que sa religion différait de la leur, jusqu'à ce que Nebuchadnetsar dressa son image d'or, avec toute sa musique, et qu'il jeta les 3 enfants dans la fournaise ardente parce qu'ils ne voulaient pas l'adorer, mais adoraient Dieu, tout en rendant à Nebuchadnetsar les choses qui lui appartenaient. Le Seigneur n'a-t-il pas préservé ses 3 enfants qui se tenaient pour lui et l'adoraient? Nebuchadnetsar n'a-t-il pas changé sa parole et le décret qu'il avait fait pour brûler ceux qui n'adoraient pas son image, et fait un autre décret par lequel il accorda la liberté aux enfants d'Israël, et le fit publier parmi tout son peuple et toutes ses nations, afin qu'il ne dise rien d'inconvenant contre le Dieu des enfants d'Israël. Nebuchadnezzar n'a-t-il pas ensuite confessé au Dieu du ciel que son royaume était un royaume éternel et sa domination de génération en génération ? Nebuchadnezzar n'a-t-il pas tenu les enfants d'Israël en grand honneur, bien qu'ils différassent par la religion, le culte, les lois et les mœurs de sa nation ? Vous pouvez lire cela dans Daniel, chapitre 3 et 4. Dans Daniel, chapitre 5, Belshazzar, son fils, n'a-t-il pas accordé la liberté aux enfants d'Israël ? Mais lorsque ce Belshazzar toucha au vase des enfants d'Israël qui avait été tiré du temple de Jérusalem, n'y eut-il pas une écriture sur la muraille contre lui ? Ainsi vous, qui êtes dans Babylone spirituelle et qui touchez au vase des enfants de Dieu, et aux Juifs en esprit, ne pensez-vous pas que l'écriture est contre vous ? Mentekel, vous êtes trouvé trop léger pesé dans la balance. Ne divisez-vous pas plutôt que d'unir, vos années ne sont-elles pas comptées ? Babylone spirituelle, n'a-t-elle pas dressé son image spirituelle et la musique autour d'elle ? N'avez-vous pas brûlé et persécuté ceux qui ne peuvent se prosterner devant elle, comme vous pouvez le lire dans l'Histoire et dans l'Apocalypse, et pourtant vous n'êtes pas allé aussi loin que Nebuchadnezzar, qui modifia ses décrets, confessa le Dieu du ciel et accorda la liberté à ceux qui différaient de son culte national ? Belshazzar n'avait-il pas une grande estime pour les Juifs, bien qu'ils différassent de sa religion et fussent captifs dans son pays ? Si c'eût été votre temps, n'auriez-vous pas dit que les trois enfants étaient désobéissants et entêtés, parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner au son de la musique et adorer son image, mais obéissaient au Seigneur ? N'étaient-ce pas certains des Babyloniens qui furent les dénonciateurs contre les enfants d'Israël, les Juifs extérieurs, et qui soulevèrent la persécution contre eux ? N'y a-t-il pas aujourd'hui beaucoup de dénonciateurs dans Babylone spirituelle qui suscitent la persécution contre les Juifs en esprit ? Dans Daniel 6, 1, 5, 24, 28, au jour de Darius empereur, les enfants d'Israël n'ont-ils pas eu la liberté sous l'empereur dans son empire, bien qu'ils différassent de son culte et de sa religion nationaux, jusqu'à ce que certains des princes cherchassent à trouver une faute ou un prétexte contre lui, mais ne purent en trouver aucune, car il était fidèle. Alors ces hommes dirent, « Nous ne trouverons rien contre ce Daniel, à moins de le trouver contre lui au sujet de la loi de son Dieu. » Ici, vous pouvez voir que Daniel avait la liberté quant à la loi de son Dieu jusqu'à ce moment, où ils avaient fait un décret, selon les Mèdes et les Perses, qui ne change pas, que quiconque présenterait une requête pendant 30 jours, hormis au roi Darius, serait jeté dans la fosse au lion. Alors Daniel rentra dans sa maison après que ce décret eut été fait, les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mit à genoux trois fois par jour, pria et rendit grâce devant son Dieu, comme il le faisait auparavant. Maintenant, ô vous persécuteurs, ne diriez-vous pas que Daniel était un grand insensé et une personne obstinément rebelle, lui qui connaissait le décret du roi et la malveillance de ses hommes contre lui, lui qui avait auparavant été en faveur auprès du roi, risquant de tout perdre et mettant sa vie en danger. Ces hommes, ayant trouvé Daniel en prière envers son Dieu, informèrent le roi, et la loi fut exécutée contre lui. Mais remarquez comment Dieu préserva Daniel, combien le roi s'en réjouit, et ce qu'il advint de ses accusateurs, qui furent jetés au lion et mis en pièces. Darius ne confessa-t-il pas alors le Dieu vivant et son royaume, et ne fit-il pas un autre décret pour donner liberté à Daniel et aux enfants d'Israël ? Darius l'empereur écrivit à tous les peuples, nations et langues habitant sur la terre, qu'ils tremblent tous et craignent devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, ferme à jamais, et son royaume ne sera pas détruit, et sa domination n'aura jamais de fin. Ainsi Daniel et ses enfants d'Israël n'avaient-ils pas la liberté dans le royaume de Darius et de Cyrus, roi de Perse et des Mèdes, bien qu'ils différassent de par la religion et fussent captifs ? Cela ne juge-t-il pas tous les chrétiens qui professent Dieu et le Christ, et disent qu'ils ne doivent pas avoir pouvoir sur la foi les uns des autres, mais qui ne peuvent s'accorder mutuellement la liberté et se persécutent les uns les autres, contrairement au commandement du Christ, qui a dit qu'ils devaient s'aimer les uns les autres. Jer 39, 11, 12, 40, 4, Jérémie avait été jeté dans le cachot, mis aux entraves et battu pour son témoignage pour le Seigneur par les Juifs persécuteurs, qui le gardèrent en prison jusqu'à ce que Nebuchadnezzar emmena ses persécuteurs captifs à Babylone. Le chef de la garde de Nebuchadnezzar fut laissé pour gouverner les pauvres du peuple, qui n'avaient rien dans le pays de Juda, et il leur donna des champs et des vignes. Nebuchadnezzar donna ordre au chef de sa garde au sujet de Jérémie, « Prends-le, veille bien sur lui, ne lui fais aucun mal. » Il fit sortir Jérémie de la cour de la prison et dit, « Aujourd'hui je te délivre de la chaîne qui est sur ta main. Si tu trouves bon de venir avec moi à Babylone, je prendrai soin de toi, Mais si tu trouves mauvais de venir à Babylone, abstiens-toi, voici tout le pays est devant toi, où il te semble bon et convenable d'aller, va là. Ainsi Jérémie demeura dans le pays de Juda. Maintenant, amis, n'y eut-il pas plus de miséricorde chez ce païen Nebuchadnetsar que chez les Juifs et les grands professeurs persécuteurs? Car bien qu'il eût conquis le pays, il ne contraigne pas Jérémie ni le peuple qu'il laissa derrière lui à adopter sa religion, mais les laissa suivre leur propre religion dans leur propre pays. Et Nebuchadnetsar n'a-t-il pas surpassé en cela la bonté de beaucoup de peuples, comme vous pouvez le lire dans Gères 38, 39, 40? N'avez-vous pas lu, dans Esdras, la proclamation de Cyrus, roi de Perse, adressée à tous les Juifs parmi le peuple dans tout son royaume, selon laquelle les Juifs pouvaient monter et bâtir leur temple, et quelle grande liberté leur fut accordée, et comment ils pouvaient avoir la liberté d'aller servir et adorer Dieu? Bien que les enfants d'Israël fussent d'une autre religion que les Mèdes et les Perses, il accorda pourtant aux enfants d'Israël la liberté. Mais c'est le Seigneur qui réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour donner la liberté d'adorer Dieu et de le servir. Par là, les gens peuvent juger ce qui excite l'esprit des hommes à persécuter des hommes pour avoir adoré Dieu, Esdras 1. Un prophète ne s'éleva-t-il pas ensuite pour persécuter les Juifs et les traiter de peuple rebelle, sous prétexte que s'ils bâtissaient un temple, ils porteraient préjudice au roi, Esdras 4, mais ensuite le persécuteur fut frustré et les enfants d'Israël poursuivirent leur œuvre. Ainsi ce Darius fit un autre décret pour la liberté des Juifs et la construction du temple, et quiconque changerait un mot du décret, le bois serait arraché de sa maison, et un gibet étant dressé, on devait l'y pendre, et sa maison devait être faite un fumier, et les enfants d'Israël devaient prier pour la vie du roi et de ses fils. Si vous pouvez voir quelle liberté cet homme, appelé païen, accorda aux Juifs extérieurs, qui différaient de lui par la religion, lui qui était païen, et quel décret strict il fit contre ce qui était contre les Juifs et aurait voulu les empêcher de bâtir le temple, et ainsi ce décret pour le service de Dieu, contrairement à sa propre religion, temple auquel le Christ a mis fin, ainsi qu'au service des prêtres et des Juifs. Et maintenant celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors, de sorte que l'ordre, le décret et la peine. Artaxerxès fit un décret selon lequel tout ce qu'Esdras le prêtre, le scribe de la loi du Dieu du ciel, demanderait, devait être fait pour la maison du Dieu du ciel, car pourquoi y aurait-il de la colère contre le royaume du roi et de son fils? Et ainsi Esdras devait établir des magistrats et des juges, et ceux qui connaissaient la loi, et enseigner à ceux qui ne la connaissaient pas, et quiconque ne ferait pas la loi de Dieu et la loi du roi, le jugement devait être exécuté promptement sur lui, que ce fût jusqu'à la mort ou jusqu'au bannissement. Esdras 7, 13, 26. Ici vous pouvez voir quelle liberté cet Artaxerxès accorda aux Juifs, qui étaient d'une religion différente de la sienne. S'ils n'obéissaient pas à sa loi païenne et à la loi de Dieu, c'était la mort, et ainsi il fait une distinction entre la loi et la loi de Dieu, bien qu'il fût païen, mais Esdras le prêtre et les Lévites et le sacerdoce primitif avec toutes leurs offrandes et leurs temples, le Christ a mis fin à ce sacerdoce et à la loi par laquelle il avait été établi, Hébreux 7. Et ainsi, quant au bannissement, à la mise à mort, à l'emprisonnement, à la confiscation des biens, concernant la construction du temple des Juifs et les sacrifices qui y étaient offerts avec leurs chanteurs et leurs ministres, le Christ a mis fin à tout cela et dit « Aimez-vous les uns les autres, non pas bannissez ni dépouillez les biens les uns des autres, ainsi son commandement doit maintenant être observé, et non celui d'Artaxerxès ni Darius pour bâtir le temple des Juifs et offrir des sacrifices, cela peut maintenant compter. Sinon, Artaxerxès ne les a-t-il pas condamnés, lui qui, par sa loi païenne, promeut la loi de Dieu et la religion des Juifs, religion et loi des Juifs auxquelles le Christ a mis fin, offrande, sacrifice et temple, comme je l'ai dit plus haut, car, comme l'apôtre l'a dit, vos corps sont les temples de Dieu. Vous pouvez aussi lire, Né 2, la modération et la délicatesse d'Artaxerxès et de sa reine envers Néhémie, bien que la religion de Néhémie différât de la leur, et bien qu'il fût païen, il donna à Néhémie un ordre d'aller voir les murs de Jérusalem réparés, bien qu'il rencontrât beaucoup d'opposition de la part de gens mauvais et qu'on l'appelât rebelle parce qu'il n'avait pas observé les religions d'autres nations. Pourtant leurs persécutions ne menèrent à rien, comme vous pouvez le voir tout au long de Néhémie. Pourquoi donc les chrétiens devraient-ils être plus impitoyables les uns envers les autres et se persécuter les uns les autres plus durement que les païens ne le firent envers les juifs? Ainsi on ne doit pas pendre, bannir, dépouiller les biens et emprisonner les uns les autres selon la loi païenne d'Artaxerxès, mais s'aimer les uns les autres selon la loi et le commandement du Christ. Et ainsi les prêtres ont par ignorance invoqué cette écriture pour persécuter, bannir, emprisonner et dépouiller les biens, eux qui sont plus obscurs que les païens, lesquels accordaient la liberté à la religion des Juifs, pourtant contraire à la leur. Et ici les prêtres et les professeurs ignorent la loi et les temps de l'Évangile. Et au jour d'Assuérus, le roi, Aman fut élevé au-dessus de tous les rois et princes, et tous les serviteurs du roi se prosternaient devant Aman, et Mardoché était assis à la porte du roi, et le roi donna l'ordre qu'il se prosterne devant Aman. Les serviteurs du roi qui étaient à la porte dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Et ils parlaient chaque jour à Mardoché, et ils ne les écoutaient pas. Alors les serviteurs le rapportèrent à Aman, pour voir si l'affaire de Mardoché tiendrait, car il leur avait dit qu'il était juif, et quand Aman vit que Mardoché ne se prosternait pas et ne lui rendait pas hommage, Aman fut plein de colère, et Aman dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait montré le peuple de Mardoché, qui était juif. C'est pourquoi Aman chercha à détruire tous les juifs dans tout le royaume. Beaucoup d'entre vous, chrétiens, ne diraient-ils pas que Mardoché était un insensé parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant Aman et faire selon la coutume de la nation, mais en refusant de faire une chose si minime, attirait la persécution et la mort sur lui-même et sur tous les juifs, et ainsi être tenu pour obstiné et rebelle, désobéissant au commandement du roi. Et ne diriez-vous pas que la loi d'Artaxerxès s'applique à lui, quiconque ne veut pas obéir à la loi de Dieu et à la loi du roi, que le jugement soit promptement exécuté sur lui, que ce soit jusqu'à la mort ou jusqu'au bannissement, ou à la confiscation des biens, ou à l'emprisonnement. Esdras 7, 26. Non, Mardoché obéissait à la loi de Dieu, et n'était pas rebelle, bien qu'il ne pût obéir au commandement du roi de se prosterner devant l'orgueilleux Aman. C'est pourquoi Aman dit au roi, « Il y a un certain peuple dispersé parmi ton peuple dans toutes les provinces de ton royaume, et ses lois sont différentes de celles de tous les peuples. Il n'observe pas non plus les lois du roi, ainsi il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser. Si le roi le veut bien, qu'on ordonne de les détruire, et je paierai 10 000 talents d'argent. » Ainsi Aman obtint du roi un décret et l'envoya pour détruire les Juifs. Considérez maintenant, il est montré ici que les Juifs avaient la liberté jusqu'à ce que Aman obtienne ce décret parce que Mardoché, le Juif, ne voulait pas se prosterner devant lui ni lui rendre hommage, bien que la religion des Juifs différât de celle du roi et de Aman, et Esté la reine étant juive parla au roi du fait que les Juifs devaient être détruits, et obtint un autre décret du roi selon lequel les Juifs ne devaient pas être détruits, décret envoyé dans toutes les provinces. Et Aman vit Mardoché assis à la porte du roi, qui ne se levait pas et ne bougeait pas pour lui. Aman fut plein de fureur, et c'est pourquoi Aman fit faire un gibet de 50 coudées d'eau pour y pendre Mardoché. Et comme Aman revenait du roi, il revint tout affligé car il devait revêtir Mardoché et le mettre à cheval, proclamer devant lui et dire « Ainsi sera fait à l'homme que le roi prend plaisir à honorer ». Puis Aman rentra chez lui et raconta à sa femme ce qui lui était arrivé, et sa femme dit « Si Mardoché ». Or, auparavant, la femme de Aman et ses amis l'avaient poussé à dresser un gibet pour y pendre Mardoché, gibet sur lequel lui-même fut pendu ensuite. Ici vous pouvez voir la fin d'un persécuteur et destructeur, qui était contre la liberté de conscience, et y a-t-il plus de Mardoché ou plus de Aman dans la chrétienté, qui voudrait tuer et détruire des hommes parce qu'ils ne se lèveraient pas et ne se prosterneraient pas devant eux, et ne leur rendraient pas hommage? Non, ne dirait-il pas que Mardoché était un rustre mal élevé, sans manière? Ne dirait-il pas qu'il le faisait exprès de rester à la porte du roi? Ne pouvait-il pas se tenir à l'écart de la porte du roi, puisque ses actes mettaient en danger la destruction de tous les Juifs? Si Mardoché, le Juif extérieur, ne pouvait se prosterner devant l'orgueilleux Aman, bien qu'en le faisant il désobéissait au commandement du roi, alors le Juif intérieur en esprit peut-il, oui ou non, se prosterner devant la nature de Aman, là où elle apparaît, et la nature de Aman ne persécutera-t-elle pas, même si elle est chez un chrétien? Et les chrétiens devraient-ils être pires que les Juifs, puisque les chrétiens ne doivent pas se persécuter les uns les autres parce qu'ils ne se prosternent pas les uns devant les autres? Car l'ange dans l'Apocalypse reprit Jean de s'être prosterné devant lui, lui disant qu'il était son compagnon de service, et dit « Garde-toi de le faire » et lui dit d'adorer Dieu, Rêve 19, 10. Ainsi que la nature de Mardoché règne parmi vous, et non celle de Aman, car remarquez la fin de Aman. Car les vrais chrétiens sont des juifs en esprit et sont frères, le Christ dit « Vous êtes tous frères ». Vous qui vous appelez chrétiens, ne les appelez-vous pas des rustres insolents et sans manière, ceux qui ne se prosternent pas? Et n'en avez-vous pas beaucoup amendés et beaucoup persécutés? N'est-ce pas là la nature de Aman, et non celle de Mardoché? Le Christ, à qui tout pouvoir au ciel et sur la terre a été donné, et à qui tout jugement est remis, a dit, « De toute parole oiseuse que les hommes auront dite, ils rendront compte au jour du jugement, ainsi par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Matt 12, 20, 36, 37. Le Christ ne dit-il pas dans Matt 5, 23-25, « Réconcilie-toi avec ton frère avant d'offrir ton don ? » Or, si tous les chrétiens observaient cela, qui pourrait offrir une offrande à Dieu parmi eux ? Car tous ceux qui enviaient leur frère chrétien et le persécutaient ne devaient pas offrir leur don jusqu'à ce qu'ils se soient réconciliés avec les frères, et s'ils le font, Dieu n'a pas plus d'égard pour leur sacrifice qu'il n'en a pour celui de Caïn qui envie son frère. Le Christ, à qui tout pouvoir au ciel et sur la terre appartient, a dit « Ne jugez point de peur d'être jugé, car du jugement dont vous jugez on vous jugera, et la mesure dont vous usez, on vous la mesurera en retour. Or vous tous qui êtes si prompts à mesurer, juger et persécuter les autres, vous n'obéissez pas à cette loi du Christ Jésus. Or il est clair que nul ne doit juger avant que la poutre soit ôtée de son propre œil, alors il pourra voir clairement comment ôter une paille de l'œil de son frère, » Matt 7, 3, 5. L'apôtre ne dit-il pas que vous devez faire du bien à tous les hommes, et si vous faites le bien, ne faites pas le mal. Et chaque homme doit porter son fardeau, et chaque homme doit éprouver son propre ouvrage, et chacun rendra compte à Dieu des choses faites dans son corps, et recevra une récompense selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et les propres paroles de chaque homme seront son fardeau. Car Dieu ne fait exception de personne, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle, et ainsi chaque semeur récolte sa propre moisson selon ce qu'il a semé. Galates 6:7-8. Les prêtres et professeurs persécuteurs se servent de Galates 5:12 pour excuser leur persécution, à savoir, « Je voudrais que ce qui vous trouble soit retranché ». Or ce retranchement des perturbateurs des apôtres, c'était par des armes spirituelles, car la guerre des apôtres n'était pas menée avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Ils ne luttaient pas non plus contre la chair et le sang, de sorte qu'ils ne pouvaient pas les retrancher par des armes charnelles. Et comme l'apôtre le dit dans Galates 4, 29-30, « Celui qui est né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est ainsi maintenant. Ainsi la servante et son fils doivent être chassés et ne pas être héritiers avec la femme libre. » Clair que ce sont la servante et son fils qui sont chassés, ceux-là même qui sont les persécuteurs. Ainsi le chrétien persécuteur peut connaître sa mère, car comme au jour d'Isaac et au jour des apôtres, ainsi en est-il maintenant. La naissance selon la chair persécutera celui qui est né selon l'esprit. Et ceux-là sont les enfants de la servante qui engendre pour la servitude, qui est Agar, mais les enfants de la femme libre sont d'Isaac, en qui la descendance est appelée, et Jérusalem d'en haut est la mère de tous ses enfants. Elle est. Le commandement de l'apôtre aux Colossiens était, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme vivant dans le monde, vous soumettez-vous à des ordonnances, ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas toutes choses destinées à périr par l'usage, selon les commandements et doctrines des hommes. Or, remarquez, n'y a-t-il pas des ordonnances, doctrines et commandements d'hommes, soutenus par le pouvoir des hommes? Et ceux qui ne sont pas morts avec Christ ne vont-ils pas goûter, manier et toucher, et s'y soumettre, et s'emporter, et envier, et persécuter ceux qui sont morts avec Christ et ne peuvent ni toucher, ni goûter, ni manier, ni s'y soumettre? Ainsi n'est-ce pas la naissance de la chair qui se soumet aux doctrines, ordonnances et commandements des hommes, qui périssent par leur usage, tandis que ceux qui sont morts avec Christ et ressuscités cherchent ce qui est descendu d'en haut, venant du Christ qui siège à la droite de Dieu, et ainsi leurs affections portent sur les choses d'en haut et sur ce qui ne périt pas. Col 2, 20-22, 3, 1-3. Bien que les apôtres aient dit aux Corinthiens, « Si quelqu'un n'aime pas Jésus-Christ, qu'il soit anathème et maranathe », l'apôtre vous dit néanmoins clairement qu'il ne luttait pas contre la chair et le sang, et que les armes étaient spirituelles et non charnelles. Il vous dit que celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit, et la naissance spirituelle a ses armes spirituelles, mais l'homme charnel a ses armes charnelles, et ainsi chaque naissance a ses armes. Zacharie 13, 2-4 est un passage que les prêtres et professeurs persécuteurs ont invoqué pour justifier leur persécution. « Le voici, je retrancherai, dit le Seigneur, les noms des idoles du pays, et on ne s'en souviendra plus. Je ferai aussi sortir du pays les prophètes et les esprits impurs. Et il arrivera que si quelqu'un prophétie encore, alors son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, « Tu ne vivras pas car tu dis des mensonges au nom du Seigneur. » Et son père et sa mère le transperceront lorsqu'il prophétise. En ce jour-là, les prophètes auront honte chacun de sa vision lorsqu'il aura prophétisé, et ils ne porteront plus un manteau de poil pour tromper. Or ces prophètes au manteau de poil, qui parlent mensongèrement au nom du Seigneur, avec leurs esprits impurs et leurs idoles, ne devaient pas être tolérés dans le pays parmi les enfants d'Israël, mais leur père et leur mère, qui les avaient engendrés, devaient les transpercer, mais quelles doivent être maintenant les armes des chrétiens, qui disent qu'ils ne sont pas juifs au dehors, mais qu'ils sont ministres de l'Évangile et croyants en Christ. Leurs armes doivent être toutes spirituelles, non charnelles, par lesquelles ils transpercent le faux prophète, ce faux esprit et cet esprit de mensonge. Ainsi leurs armes sont spirituelles, ils ne luttent pas contre la chair et le sang. Ces prêtres et professeurs persécuteurs de la chrétienté ne sont-ils pas comme ces prophètes au manteau de poil, qui serviront pour de l'argent sous n'importe qui, presbytérien, papiste ou épiscopal, comme les soldats avaient coutume de servir sous n'importe qui pour de l'argent, eux qui luttent contre la chair et le sang? Leur tâche n'est-elle pas d'appeler le magistrat à les aider à lutter contre la chair et le sang, et contre ceux qui ne pensent pas comme eux? Ne sont-ils pas comme ces prophètes qui tantôt étaient pour les Juifs, tantôt pour Jézabel et Achab? Vous pouvez voir combien ils étaient prompts à se tourner, comme vous le lisez dans les Écritures. Mais les vrais prophètes et apôtres n'étaient pas persécuteurs, ils étaient persécutés. Moïse n'a-t-il pas été persécuté par Pharaon? Mais qu'est-il advenu de Pharaon et des autres qui le persécutaient? Et n'était-ce pas pour la religion? Abel n'a-t-il pas été assassiné par Caïn, le persécuteur, au sujet de la religion? Et bien que Caïn pût bâtir des villes, il n'en fut pas moins un vagabond, et tous les persécuteurs ne vont-ils pas dans la voie de Caïn ? Lisez Jude 1, 3-13. Les enfants d'Israël furent opprimés sous Pharaon ? Considérez la fin de cet oppresseur. Élie fut persécuté par Jézabel ? Considérez la fin de cette persécutrice. Le prophète fut menacé par Jéhoboam, Zacharie fut lapidé à mort pour sa religion, Michée ne fut-il pas renversé et n'eut-il pas le cou brisé pour sa religion? Amos ne fut-il pas frappé d'un gourdin au temple et ainsi tué pour sa religion? Isaïe ne fut-il pas scié en deux pour sa religion? Jérémie ne fut-il pas souvent persécuté pour sa religion, emprisonné et jeté dans un profond cachot, puis lapidé à mort en Égypte? Ézéchiel ne fut-il pas tué à Babylone par le duc du peuple pour sa religion? Daniel ne fut-il pas jeté dans la fosse aux lions affamés, où il fut préservé? Les trois enfants ne furent-ils pas jetés dans la fournaise ardente pour leur religion? Baruch n'était-il pas prêt à fuir pour sauver sa vie de la main du roi Joa, pour sa religion et son témoignage? Le prophète Uria ne fut-il pas tué par l'épée par le roi Joachim? Jean-Baptiste ne fut-il pas décapité par Hérode le tétrarque? Étienne ne fut-il pas lapidé à mort par les grands juifs professants, pour sa religion? Jacques ne fut-il pas décapité par Hérode Agrippa? Pierre ne fut-il pas crucifié à Rome, sous Néron, la tête en bas? André ne fut-il pas crucifié par Égéa, roi d'Édissa à Patara, ville d'Achaï? Jacques d'Alphée, de Jérusalem, ne fut-il pas précipité de haut et assommé d'un bâton de foulon? Thomas ne fut-il pas tué à Calamina, ville des Indes, où les panimes le transpercèrent d'un dard? Philippe ne fut-il pas crucifié à Hiérapoli, en Asie pour sa religion? Barthélemy ne fut-il pas écorché vif en Judée, la peau tirée sur ses oreilles, puis décapité? Mort ne fut-elle pas transpercée d'une épée nue en Éthiopie? Simon ne fut-il pas crucifié? Jude ne fut-il pas tué? Et Jean fouetté? Et souvent persécuté et plongé dans de l'huile bouillante? Matthias ne fut-il pas frappé à la tête d'une hache puis décapité? Marc l'évangéliste ne fut-il pas traîné par une corde passée autour du cou à travers la ville d'Alexandrie jusqu'à ce que sa chair fût déchirée en morceaux et que les pierres fussent teintes de son sang? Et qu'à la fin il fût brûlé en cendres? Barnabé n'eut-il pas une corde attachée autour du cou? Puis fut-il traîné jusqu'au bûcher et brûlé? Tous ceux-là n'ont-ils pas souffert pour la religion? Et ceux qui les persécutaient, n'était-ce pas la naissance selon la chair? Et cette naissance n'est-elle pas encore visible aujourd'hui dans la chrétienté, qui persécute celui qui est né de l'esprit, luttant contre la chair et le sang? Et qu'est-il advenu de tous ces persécuteurs? La mémoire des méchants ne pourrit-elle pas, et la mémoire des justes ne vit-elle pas? Jacob ne fut-il pas persécuté par Ésaü à cause de sa bénédiction? Genèse 27-41. Joseph ne fut-il pas persécuté par ses frères, qui ensuite le bannirent et le vendirent? N'était-ce pas à cause de ce que Dieu avait montré à Joseph, ce qui arriva ensuite? Et ses frères en reçurent-ils des louanges? Ne furent-ils pas ensuite troublés et jugés en eux-mêmes pour cela? Lot ne fut-il pas persécuté et moqué à Sodome? Lisez ce qu'il advint de ces sodomites temporellement aveugles persécutant le juste, et alors vous pourrez dire ce qu'il adviendra de ces sodomites spirituellement aveugles persécutant. Si Sodome extérieure fut réduite en cendres, qu'adviendra-t-il de la Sodome spirituelle? La persécution n'a-t-elle pas toujours été aveugle? Le Christ n'a-t-il pas dit que les prêtres et pharisiens persécuteurs étaient des guides aveugles, qui conduisent des aveugles dans la fosse? Tous les prêtres et enseignants persécuteurs de la chrétienté ne sont-ils pas des guides aveugles? Qui sera conduit par eux sinon des aveugles? Et le lieu où ils conduisent, n'est-ce pas la fosse? Et la persécution n'est-elle pas dirigée contre ceux qui peuvent voir? Ainsi tous les guides persécuteurs de la chrétienté, ne sont-ils pas des aveugles, faisant les œuvres de la nuit et non du jour, où les gens peuvent voir? La naissance qui persécute n'est-elle pas celle qui est née du sein d'Agar, et non du sein de la vraie femme dont Isaac est issu? Car Agar était une Égyptienne qui enfanta l'Ishmaël sauvage, dont la main est contre tous. Ainsi maintenant l'esprit de Caïn, l'esprit de Corée, l'esprit de Sodome, et celui de Pharaon, des Égyptiens et des Juifs persécuteurs ne se voient-ils pas? L'esprit de tous ceux-là ne règne-t-il pas en celui qui est né selon la chair? Abraham, sorti de son propre pays, n'eut-il pas la liberté de servir Dieu parmi les Cananéens? Et quand Abraham descendit en Égypte, n'y eut-il pas là la liberté de servir Dieu? Comme vous pouvez le lire en Genèse 12, 19, 20, bien que les Égyptiens et les Cananéens fussent de mauvaises gens. Et Abraham n'eut-il pas la liberté de servir Dieu dans le pays d'Abimélec? Abimélec dit, « Mon pays est devant toi, demeure où il te plaît. » Dans quel pays a-t-on fait une loi selon laquelle Abraham, Isaac et Jacob ne devaient pas adorer et servir le Dieu du ciel, bien qu'ils différassent par la religion du pays? Et bien que les enfants d'Israël aient été opprimés en Égypte, où lisez-vous jamais que Pharaon ait fait une loi interdisant à Joseph ou au peuple d'Israël de servir le Seigneur leur Dieu pendant qu'ils étaient parmi eux? Mais lorsqu'ils se multiplièrent, un autre roi les opprima par de durs travaux, et donna un ordre pour entraver leur croissance, de tuer tous les enfants mâles. Mais les sages-femmes, craignant Dieu, ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait commandé, de tuer tous les enfants mâles. Or, beaucoup dans la chrétienté ne diraient-ils pas que ces sages-femmes étaient rebelles au commandement du roi, et que la loi d'Artaxerxès devrait être exécutée contre elles de mort et de bannissement pour avoir désobéi à la loi du roi? Car si le pape ou d'autres faisaient une loi ordonnant de brûler, tuer, bannir et emprisonner, ne seriez-vous pas disposés à l'obéir, même si elle est contraire à vos consciences, contraire au commandement du Christ Jésus, selon lequel vous devez vous aimer les uns les autres et ne pas vous détruire les uns les autres? Exode 1:8-21. Dans sa main 14, lorsque Saül, le roi, donna l'ordre que Jonathan, son fils, mourût pour avoir goûté du miel, alors que Saül avait interdit à tout homme de manger de la nourriture ce jour-là, et que par conséquent son fils qui avait goûté un peu de miel devait mourir, le peuple désobéit au commandement de Saül et dit « Jonathan ne mourra pas, car il a opéré le salut en Israël » et ainsi, on voit que ceux qui craignaient Dieu ne pouvaient obéir à des serments et des ordres téméraires. Un autre passage de l'Écriture que les prêtres et les papistes ont invoqué pour mettre des hommes à mort au sujet de la religion est 2:17-12. L'homme qui agira avec présomption et n'écoutera pas le prêtre qui se tient là pour servir devant le Seigneur ou le juge, cet homme-là mourra. Or, Jean, voici l'une des écritures que les papistes avaient coutume d'apporter, parce qu'ils ne voulaient pas écouter leurs prêtres. Remarquez donc leur ignorance, ne savez-vous pas que c'étaient là les prêtres lévitiques des Juifs? Et alors ne faudrait-il pas mettre à mort tous les papistes, les protestants et les autres, s'ils ne veulent pas écouter les prêtres des Juifs, qui devaient administrer la loi? Mais moi je dis que Christ est venu, lui qui sauve la vie des hommes, et qu'il n'est pas venu pour la détruire, ce qui met fin aux prêtres des Juifs, et à la loi par laquelle ils furent institués, Ebsèques, et à leurs armes charnelles. Et ainsi Christ, qui est le prêtre élevé au-dessus des cieux, doit être écouté en toutes choses, et non les prêtres juifs, comme vous pouvez le lire en Ebsèques 26 et Actes 7 37. Et une autre écriture qu'ils apportent, le prophète qui présumera de dire une parole en mon nom, que je ne lui ai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète mourra. Or, remarquez, vous papistes ou autres appelés prêtres ou prophètes, avez-vous jamais entendu la voix de Dieu, que vous nous avez refusé, à nous qu'on appelle Quakers, comme si vous l'aviez jamais entendu? Alors cette sentence n'est-elle pas retombée sur vous-même, comme sur des hommes morts, selon votre propre jugement? Mais voici votre ignorance, Christ est venu le grand prophète qui accomplit les vrais prophètes, c'est lui qu'il faut écouter, et il est la pierre qui tombe sur les faux prophètes spirituels, qui n'ont pas entendu la voix de Dieu, et pourtant il sauve la vie des hommes, et Christ met fin aux armes charnelles des Juifs, et établit les spirituels, par lesquels ils ne luttent pas contre la chair et le sang, 2:18-20. Si en 2:13, une autre écriture que les papistes et les protestants avaient coutume d'apporter pour la persécution, s'il s'élève quelque prophète ou songeur, ou s'il te donne un signe et un prodige, et que le signe et le prodige s'accomplissent, dont il te parle en disant « Allons après d'autres dieux et servons-les », et ainsi abandonner le Seigneur Dieu et ses commandements, ce prophète ou ce songeur sera mis à mort. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme de ton sein, ou ton ami qui est comme ton âme, t'insient. Or, remarquez, Jean, cela était ceux qui, par leurs songes et leurs prophéties, voulaient détourner les gens du Dieu vivant pour servir d'autres dieux. Selon la loi des Juifs, ils devaient être lapidés à mort, même s'ils étaient leurs proches, comme il a été dit. Mais Christ est venu, il a mis fin à la loi des Juifs, à leurs armes, à leur religion et à leur culte, et il a établi l'Évangile, l'adoration en esprit et en vérité, et Christ n'a promulgué aucune loi, et ses disciples après lui n'en ont promulgué aucune, pour mettre les hommes à mort, même s'ils étaient de faux adorateurs, car vous voyez que beaucoup abandonnèrent Christ après l'avoir suivi, et beaucoup abandonnèrent les apôtres après avoir été convaincus, entraînant d'autres à leur suite. Pourtant ni Christ ni les apôtres n'établissent. Car Christ reprit ses disciples qui auraient voulu que la vie des hommes fût détruite, et il dit, « Il est venu les sauver, non les détruire, et son commandement était qu'ils s'aiment les uns les autres, et aiment leurs ennemis. Et Christ est la pierre du sommet et la pierre angulaire qui tombe sur les faux songeurs et les faux prophètes, tout en sauvant les hommes. » Et vous pouvez lire en Jude 1:8, « Et chez Pierre qu'il y avait de sales songeurs en leur jour, de Pierre 2, pourtant les apôtres n'établirent pas de loi pour les mettre à mort, bien qu'ils détournassent des gens de la puissance de Christ. » Car l'apôtre vous dit que ses armes sont spirituelles et non charnelles, ils ne luttent pas contre la chair et le sang, ni ne font la guerre à cela, mais contre les méchancetés spirituelles. Et c'était les méchancetés spirituelles en eux qui faisaient de faux prophètes et de faux songeurs pour détourner les gens de Dieu. Et c'est cette loi des Juifs qui met les hommes à mort pour des questions de religion est changée par Christ, et Christ a établi sa loi d'amour, s'aimer les uns les autres et aimer ses ennemis. Et bien que Christ fût appelé blasphémateur, séducteur, démon et fou, il n'établit pas de loi pour les mettre à mort. Et n'a-t-il pas prié son Père de pardonner à ceux qui le persécutaient? Mais vous, papistes et autres, s'il vous était accordé que les prophètes et les songeurs qui détournent les gens du Dieu vivant et de ses commandements pour servir d'autres dieux, et vous qui voudriez que la loi des Juifs, que vous tirez d'Esdras, soit appliquée à ces chrétiens, alors la loi des Juifs ne retombe-t-elle pas sur vous-même? Car après avoir consacré le pain et le vin, ne dites-vous pas que c'est Dieu, et ainsi, selon la loi des Juifs, ne devriez-vous pas être mis à mort, vous qui établissez un autre Dieu et y attirez les gens, et êtes ainsi condamnés par vos propres écritures. Pourtant, je dis que Christ a mis fin à la loi et à leurs armes, ainsi qu'à la religion des Juifs, et ce n'est pas celui qu'il est extérieurement qui est juif, mais celui qu'il est intérieurement, dans l'esprit, comme en Romains 28-29. Mais si vous papistes dites qu'il faut mettre à mort ce qui détourne de Christ et de son commandement, alors je dis comme je l'ai dit auparavant que vous avez prononcé sentence contre vous-même par votre propre loi, que vous n'avez pas reçu de Christ, car la loi de Christ est « aimez-vous les uns les autres et aimez vos ennemis ». Et vous vous êtes égarés loin de cette loi et de ce commandement, et par eux vous êtes jugés, vous qui, au lieu de vous aimer les uns les autres, vous vous êtes enviés, persécutés et tués les uns les autres, comme Caïn, et ainsi. Car cette naissance de la chair en vous est ce qui a toujours persécuté ceux qui ont donné les Écritures, et Christ qui en est la substance, et ceux qui vivent leur vie. Et ainsi cette naissance de la chair est ce qui ne donne pas les Écritures, ne les connaît pas, ni ne peut les interpréter. Et ainsi un commandement de Dieu est, que la chair se taise, ainsi la naissance de la chair doit se taire, elle qui veut persécuter celui qui est né selon l'esprit. Et ainsi celui qui est né de l'esprit, c'est lui qui doit parler, lui dont les armes ne sont pas charnelles, et qui ne lutte pas contre la chair et le sang, ni ne leur fait la guerre, chrétienté, prends-y garde. Jonaf, Josué laissa aux Gabonites la liberté, qu'ils avaient obtenue par ruse, bien que l'ordre de Dieu fût de détruire tous les méchants habitants du pays, et bien qu'ils fussent des gens méchants, et qu'ils l'eussent obtenue par subtilité, pourtant il leur laissa la liberté. Et assurément les chrétiens devraient aller au-delà de Josué, et ne pas restreindre la liberté de ceux qui ne désirent rien d'autre que la liberté d'adorer Dieu, car les Gabonites ne cherchaient pas la liberté pour adorer Dieu, et il devrait donc y avoir une différence entre les Boniface I, pape universel, fut établi par Phocas, qui assassina Maurice son maître. Il fut le premier pape universel à s'élever, 602 ans après Christ, et environ 20 ans après que le Turc se fut levé. Les chrétiens n'ont-ils pas la liberté sous le Turc en payant leur tribut, et n'est-on pas intervenu contre eux pour leur religion? Le Turc ne garde-t-il pas son sabbat le sixième jour, et alors ses boutiques sont fermées, et toutes les boutiques des Juifs et des chrétiens sont ouvertes? Les Juifs ne gardent-ils pas leur sabbat le septième jour en Turquie, et alors toutes les boutiques des chrétiens et des Turcs sont ouvertes? Les chrétiens gardent leur sabbat le premier jour de la semaine, fermant leurs boutiques, et toutes les boutiques des Turcs et des Juifs sont ouvertes. En cela, le Turc ne donne-t-il pas la liberté de conscience, bien qu'il soit païen? Et les chrétiens ne devraient-ils pas surpasser le Turc et se donner la liberté d'adorer Dieu les uns aux autres? Les Corinthiens n'avaient-ils pas la liberté en Turquie, et les églises grecques la liberté d'adorer Dieu et de suivre leur propre religion? N'est-ce pas là une conduite des Turcs qui dépasse celle des chrétiens qui ne peuvent se donner la liberté les uns aux autres? Ne savez-vous pas que les chrétiens ont leur liberté en Égypte et à Jérusalem, bien que ce soit dans le pays du Turc et bien qu'il diffère de sa religion? Quand le Turc conquiert un pays, ne laisse-t-il pas les gens tranquilles quant à leur religion, pourvu qu'il ait son tribut et ses taxes? De même, quand Alexandre conquit le monde, ne laissa-t-il pas aux Juifs leur liberté? Et lorsque les Romains conquirent Jérusalem, les Juifs n'eurent-ils pas la liberté? Lisez les Écritures. Au jour de Christ et des apôtres, il y avait beaucoup de sectes, comme les pharisiens et les sadducéens parmi les Juifs d'alors, comme vous pouvez le lire dans les Écritures, et n'avaient-ils pas la liberté parmi les Juifs, bien qu'ils diffèrent entre eux en certaines circonstances? N'y a-t-il pas beaucoup de sortes de religions dans le pays du Mogol? Oui, et certains chrétiens n'y ont-ils pas la liberté de servir Dieu? Quelqu'un qui y a voyagé rapporte qu'il y a 60 religions qui y ont leur liberté sans trouble, en payant leurs droits. Les chrétiens ne devraient-ils pas avoir un esprit plus noble que lui le Mogol? Les chrétiens n'ont-ils pas la liberté en Perse? Parmi les Turcs, n'y a-t-il pas beaucoup de sortes de religions parmi eux, qui diffèrent en certaines choses, puisqu'ils reconnaissent tous Dieu et Christ Jésus? Par conséquent, ne devrait-il pas être d'un esprit plus noble que le Turc, le Mogol et les Perses? N'est-ce pas les Ariens et le pape qui furent les deux premiers à soulever la persécution, un chrétien contre un autre, contrairement à la loi du Christ, aimer ses ennemis et s'aimer les uns les autres? Ainsi, la loi d'amour de Christ n'a-t-elle pas été mise de côté? Après qu'Adam et Ève eurent transgressé la loi de Dieu, Dieu laissa à Adam la liberté sur la terre, bien qu'il n'eût plus celle du paradis de Dieu. Ainsi bien que les chrétiens ne puissent se conformer à votre Église par délicatesse de conscience envers Dieu, vous pouvez leur laisser la liberté de la terre, et bien qu'Ismaël, l'homme sauvage, n'eût pas la liberté dans la famille d'Abraham, il eut la liberté dans le désert. Concernant l'acte qui a été fait contre les Quakes et les autres, quant à nous qu'on appelle Quakers, voici ce que nous disons: nous ne nous réunissons pas pour comploter ni tramer contre le roi, et nous ne soutenons pas de principes dangereux mais la vérité, nous ne nous réunissons pas pour effrayer les sujets du roi, mais nous cherchons le bien et le salut éternel du roi et de tous les gens. Et nous abhorrons et détestons tous les complots et les comploteurs, et les ouvriers des ténèbres, et puisque le même acte interdit à plus de 5 personnes de se réunir. Et il se serait aussi appliqué aux Éphésiens, aux Philippiens et aux Corinthiens, et à toutes les autres églises qui se réunissaient, et pensez-vous qu'ils n'auraient pas souffert, soit de la part des païens, soit des chrétiens, plutôt que de rompre leurs assemblées, ou que Christ renie ses disciples. Si certains chrétiens ou païens, qui différaient d'eux, avaient fait une loi selon laquelle ces chrétiens qui différaient d'eux ne devaient pas se réunir à plus de 5 à la fois, cela n'aurait-il pas été, et ne serait-il pas, contraire à Jésus qui a dit « Aimez-vous les uns les autres, et aimez vos ennemis, lui à qui tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné ». Car lisez-vous jamais que Christ et les apôtres aient fait une loi pour punir, ou faire souffrir quelqu'un qui ne les écoutait pas, ou qui différait d'eux en matière de religion et de culte? Lisez-vous jamais que les Juifs aient fait une loi interdisant à plus de 5 chrétiens de se réunir, bien que la religion chrétienne fût contraire à la leur? Donc, puisque Dieu jugera le monde avec justice, ce qui signifie qu'il y a quelque chose en l'homme et la femme qui répond à la justice qu'il transgresse, et qu'il jugera le monde par l'homme, Christ Jésus selon l'Évangile, c'est-à-dire selon la puissance montrant qu'il y a quelque chose en l'homme qui répond à la puissance qui est l'Évangile, et qui est invisible, et ceux qui marchent dans la puissance qui est l'Évangile doivent avoir la liberté de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu avant que le diable fût là où se trouve toute servitude, et ainsi. Ceux qui luttent contre la chair et le sang au sujet de la religion ne sont ni dans l'esprit, ni dans la puissance, ni dans la doctrine des apôtres, et si la loi n'atteint que l'homme extérieur pour ses actes alors il s'ensuit, et cela est clair, que l'homme intérieur selon Dieu doit avoir sa liberté. Cet homme intérieur conduit l'homme extérieur conformément à la justice et à l'état d'un homme juste pour lequel la loi extérieure n'a pas été faite, ainsi elle ne doit pas être exécutée contre l'homme juste. Ainsi tous les magistrats doivent faire une distinction et marquer une différence dans ce cas, car si les pouvoirs des rois et les magistrats, avec leurs lois, s'emparent des mauvaises actions extérieures et de l'homme extérieur, l'esprit mauvais le conduisant à faire le mal, mais Christ, qui est le roi des rois et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, doit régner dans le cœur de l'homme spirituel, et Dieu habitera en l'homme et marchera en l'homme, qui est son temple. C'est pourquoi il doit régner dans la conscience et dans le cœur en matière. Et ainsi, si Christ est en vous, et si Dieu est en vous, il doit régner en matière de religion, car sa religion est pure, venant d'en haut, venant de lui-même. Il doit régner sur la foi, lui qui en est l'auteur, et Christ doit régner sur son culte, établi depuis plus de 1600 ans, en esprit et en vérité. Car les Chaldéens purent-ils trouver quelque chose contre Daniel, sinon en matière touchant son Dieu? Et pûtes-vous jamais trouver quelque chose contre les Quakers, sinon au sujet de leur Dieu et du culte qui lui est rendu? Caïn put-il trouver quelque chose contre Abel, sinon en matière touchant son Dieu, ou les fils de Jacob contre Joseph, sinon au sujet de son Dieu? Où pouvait-on trouver quelque faute chez Isaïe, Jérémie et Élisée en leur jour, sinon ce qui concernait leur Dieu? Où pouvait-il trouver quelque faute en Christ ou chez les apôtres, pour laquelle ils les persécutèrent, sinon seulement des choses concernant Dieu et Christ? Depuis les jours des apôtres, la bête, la prostituée, le faux prophète et l'antéchrist, qui a bu le sang des martyrs, des prophètes et des saints qui ont gardé le témoignage de Jésus. Toute cette persécution n'était-elle pas contre eux au sujet de leur Dieu et de Christ Jésus? Car quelle faute pouvaient-ils trouver en eux de plus que ce qu'ils trouvèrent en Daniel au sujet de son Dieu? Ainsi vous pouvez lire à travers toutes les écritures d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et du reste des prophètes de Moïse et d'Aaron, de Noé et de Lot, que leurs souffrances vinrent sur eux au sujet de leur Dieu. Car quelle faute pouvait-on trouver en eux? Ou quelle faute Pharaon pouvait-il trouver contre Moïse et Aaron, sinon des choses concernant leur Dieu, ou Sodome contre Lot, ou l'ancien monde contre Noé, sinon des choses concernant leur Dieu? Ainsi il est clair partout. La naissance de la chair a toujours persécuté la naissance de l'esprit, comme il est écrit, « Celui qui est né de la chair persécute celui qui est né de l'esprit ». Et Christ Jésus, qui a établi son culte depuis plus de 1600 ans, lui qui a dit « L'heure est venue, et elle est déjà là, où ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité », ce sont là ce que Dieu cherche pour l'adorer et Christ et les apôtres n'ont jamais changé ce culte jusqu'à ce jour. Ce culte a été établi avant que les nombreux cultes parmi les chrétiens ne soient instaurés, et il subsistera quand ils auront disparu. Et Christ est le juge dans ce culte établi par lui-même, et non par l'homme. Et Christ n'a donné aucune loi, ni commandement, ni ordre aux apôtres pour persécuter ceux qui n'adoraient pas selon son culte. Mais vous voyez que tous les cultes établis par les hommes à un moment ou à un autre, la plupart ont forcé les gens à leur culte et ont persécuté ceux qui ne s'y conformaient pas. Et cette contrainte ne fait que des hypocrites passant d'un culte à un autre. Et remarquez la fin de tous ces cultes et de leurs adorateurs dans le monde, là où il y a eu contrainte et persécution. Ce que les hommes fabriquent et établissent, ils en sont juges, et jugent en cela, et n'est-ce pas amener les gens à adorer l'œuvre des mains des hommes? Le culte que Christ a établi, c'est lui qui en est le juge, et il est en esprit et en vérité. Ainsi il est manifeste que c'est Caïn, dans la première naissance, qui a persécuté Abel, la seconde naissance, en tous les âges. Et ce Caïn, la première naissance et persécuteur d'Abel, Dieu n'a pas, et n'a jamais eu, égard à son sacrifice, lui qui est la descendance de Caïn, la première naissance, et non d'Abel. ainsi qu'Ain peut lire sa naissance et son antiquité, et Abel souffrant peut lire sa naissance et son antiquité, lui à qui Dieu a eu à égard, ainsi qu'à son sacrifice. Pourtant Paul n'avait-il pas la liberté à Rome, parmi les Romains païens d'une autre religion que Paul, de prêcher l'Évangile pendant 2 ans, dans sa maison louée, comme vous le voyez en Actes 28, 30-31. La loi fut ajoutée à cause des transgressions, et elle n'a pas été faite pour le juste, mais pour les pécheurs et les désobéissants. Remarquez, c'est à cause de la transgression et de la désobéissance que la loi fut ajoutée. L'homme et la femme, au commencement, désobéirent et transgressèrent le commandement de Dieu, et ainsi perdirent l'image de Dieu et sa justice, et le paradis de Dieu. Et ainsi la loi, qui est juste, sainte et bonne, vint sur l'homme et la femme désobéissants et transgresseurs. Cette loi servit jusqu'à ce que la semence vînt, et Christ. Et puisque la loi fut ajoutée à cause de la transgression, alors ceux qui ne transgressent pas, la loi ne les saisit pas, et ils ne sont pas sous elle. Et puisque la loi fut faite pour les désobéissants et les pécheurs, alors celui qui ne désobéit pas au commandement de Dieu, mais qui est conduit par l'Esprit de Dieu, n'est pas sous la loi. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ne transgressent pas ne sont pas sous la loi. Et dès lors, les magistrats ne doivent-ils pas faire une distinction et marquer une différence entre les transgresseurs et les désobéissants, et les obéissants et ceux qui ne transgressent pas? Or, chrétiens, papistes et autres, que dites-vous des apôtres qui désobéirent à l'ordre du Conseil des Juifs, en prêchant de nouveau au nom de Jésus après qu'on leur eut commandé de ne pas prêcher? Actes 4, 1, 4, 16, 21. Ne diriez-vous pas que la loi d'Artaxerxès devait être exécutée contre eux, et qu'ils devaient être emprisonnés, bannis et mis à mort, ou que leurs biens devaient être confisqués? Et ne diriez-vous pas aussi que cette loi d'Artaxerxès devait justement être exécutée contre Daniel et les 3 enfants, pour avoir désobéi à l'ordre du roi? Ne diriez-vous pas qu'elle devait être exécutée contre les sages-femmes pour n'avoir pas exécuté l'ordre de Pharaon de tuer les enfants mâles, elles qui firent que cette loi soit exécutée contre les chrétiens? Or Artaxerxès, sa loi païenne et la loi de Dieu, étaient pour que les Juifs bâtissent le temple. Vous qui vous appelez chrétiens, êtes-vous des Juifs? Allez-vous bâtir le temple des Juifs, loi qui était avant que Christ vînt en chair? Car à moins que vous n'alliez accomplir la loi d'Artaxerxès et bâtir le temple, la loi d'Artaxerxès est contre vous. Car les biens de personne ne doivent être spoliés, ni personne banni, emprisonné ou mis à mort pour n'être pas allé bâtir le temple des Juifs à Jérusalem extérieure aujourd'hui. Car ce n'est pas celui qui est juif au dehors, car le temple des Juifs a été aboli par Christ, tout comme la loi qui soutenait la religion, le temple et le sacerdoce des Juifs. Par la loi des Juifs, vous ne lisez jamais que quelqu'un devait être mis à mort, ou banni, et ses biens spoliés, pour n'avoir pas réparé ou bâti le temple à Jérusalem extérieure. Mais la Jérusalem qui est maintenant, qui est en bas, est en servitude avec ses enfants sous le Turc, comme elle l'était sous le pouvoir des Romains au jour des apôtres. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et elle doit être libre dans sa religion, sa foi, son culte et son évangile. Elle est la mère de nous tous, les vrais adorateurs, qui a un nouveau commandement de Christ, lequel n'est pas de bannir, de tuer, de mettre à mort, de spolier les biens, mais de s'aimer les uns les autres. C'est là la loi de Jésus à qui tout pouvoir dans le ciel a été donné, lui qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Ainsi son commandement doit être observé, et c'est lui qu'il faut écouter en toutes choses, et non la loi. Les apôtres, en Romains, parlent de ceux qui sont sans affection naturelle, comme de ceux qui sont sans affection naturelle, qui n'ont pas d'affection pour la nature, mais détruiront, emprisonneront et persécuteront l'ouvrage des mains de Dieu et les créatures que Dieu a créées, au sujet de leur culte et de leur religion. Et ceux qui sont sans affection naturelle sont tels qu'on ne peut jamais apaiser, ni rendre miséricordieux, mais qui sont sans pitié. Ils détruisent en eux-mêmes la bonne nature, par laquelle ils n'ont pas d'affection naturelle pour leurs frères naturels. Car Caïn détruisit les affections naturelles en lui-même avant de détruire son frère naturel. Car la nature est une, et ne se détruirait pas elle-même, et elle a de l'affection pour elle-même. Mais le serpent sortant de la vérité, conduisant l'homme et la femme hors de la vérité, corrompant ainsi et détruisant la nature en eux-mêmes, par quoi ils sont menés par un esprit mauvais à détruire la nature hors d'eux, et n'ont pas d'affection pour elle, et cela a été l'œuvre de l'ennemi, et de tous les tueurs et persécuteurs au sujet de la religion et du culte dans le monde entier jusqu'à ce jour. Car ceux qui détruisent la nature à cause de telles choses ne peuvent avoir d'affection pour la nature, mais sont sans affection naturelle. Et ceux qui sont sans affection naturelle ne peuvent connaître les choses divines proclamées par les saints hommes de Dieu, par Christ et les apôtres du commencement à la fin des Écritures. Et ceux qui sont sans affection naturelle ne peuvent aimer la fraternité, ni s'aimer les uns les autres, ni aimer leurs ennemis. Par conséquent, cela ne garde pas le commandement de Christ. Ainsi ceux qui s'aiment les uns les autres et aiment leurs ennemis ont des affections pour la nature, et ne voudraient pas que l'un l'autre soit détruit, eux qui sont des créatures de Dieu. Et ainsi ils aiment toutes les choses que Dieu a faites, dont les œuvres le louent, et cela en non seulement des affections naturelles pour la nature, mais la nature divine, et des affections portées sur les choses d'en haut. Ainsi ils ont des affections pour les choses de la nature et des affections pour les choses d'en haut. Ainsi, comme dit l'apôtre, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui est son frère est un menteur. Ainsi tous ceux qui disent qu'ils aiment Dieu en chrétienté, qu'est-ce qui s'ensuit? Que sont-ils? Que dit l'apôtre? Il est menteur celui qui hait ses frères, car comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu et haïr son frère qu'il a vu? Remarquez donc cette raison solide, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui, ainsi prenez garde aux paroles de ce grand apôtre toute la chrétienté, vous qui haïssez vos frères et les persécutez, le grand apôtre dit et vous dit, vous êtes des meurtriers, et la vie éternelle ne demeure pas en vous, 1 Jean 3, 10, 16. Celui qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à présent, et celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et remarquez chrétienté, celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et ne sait où il va parce que ses ténèbres ont aveuglé ses yeux. Maintenant considérez cela, vous tous qui haïssez vos frères, ce que dit l'apôtre, votre chemin n'est pas dans la lumière mais dans les ténèbres, et vous ne savez pas où vous allez car les ténèbres ont aveuglé vos yeux. Rejetez donc la haine afin que vos yeux soient. Ainsi n'est-il pas clair que ceux dont les yeux sont aveuglés, qui marchent dans les ténèbres, haïssant leurs frères, cette haine ne vient-elle pas du serpent, qui fut le premier haineux, qui haïssait la prospérité d'Adam et d'Ève et leur domination sur toutes les choses que Dieu avait faites. N'est-ce pas là les ténèbres dans lesquelles marchent ceux qui haïssent leurs frères, venant du prince des ténèbres, le serpent, n'est-ce pas lui qui a aveuglé leurs yeux, eux qui sont dupés par la haine et les ténèbres du serpent, si bien qu'ils ne savent où ils vont, mais ceux qui marchent dans la lumière et aiment les frères savent où ils vont, et en eux il n'y a aucune occasion de chute. Et comment ceux qui haïssent leurs frères et marchent dans les ténèbres, qui ont aveuglé leurs yeux, pourraient-ils connaître les Écritures que les saints hommes ont prononcées, poussées par le Saint-Esprit, et l'œuvre de ceux qui marchent dans les ténèbres n'a-t-elle pas été de haïr et de persécuter de tels hommes? L'origine n'a-t-elle pas été le serpent, et non Dieu et Christ qui dit « Aimez-vous les uns les autres et aimez vos ennemis, ceci est par amour pour vous tous, pour votre bien éternel ». George Fox, un marteau pour abattre toutes les images inventées, les fabricants d'images et les adorateurs d'images. Montrant combien ils sont contraires à la foi, à la loi et à l'Évangile. Ainsi donc l'iniquité de Jacob sera expiée, et tout le fruit sera doté son péché, lorsqu'il rendra toutes les pierres de l'autel semblables à des pierres de chaux brisées en morceaux, les bosquets et les images ne se dresseront plus. Exodus 27:9. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre se détachât de la montagne sans main, qui frappa l'image sur ses pieds, qui était de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Dan 2:34. Tu souilleras le revêtement de tes images taillées en argent, et l'ornement de tes images fondues en or, tu les jetteras comme un linge de menstruation, tu lui diras « Va-t'en d'ici ». Exodus 30, 22. Je retrancherai aussi tes images taillées, et tes statues du milieu de toi, et tu n'adoreras plus l'œuvre de tes mains. Michée 5, 13. Par G. F. Le Seigneur Dieu fit l'homme et la femme à son image, et à sa ressemblance, et les plaça au-dessus de toutes les œuvres de sa main. Mais lorsque l'homme et la femme perdirent l'image de Dieu et sa ressemblance au-dedans d'eux, en transgressant son commandement, en mangeant de ce que Dieu leur avait défendu, alors par la transgression de son commandement, le serpent qui était au-dessous d'eux prit le dessus sur eux, et en eux de sorte que le corps de mort et de péché entra alors dans l'homme et la femme, car le péché apporte la mort, et alors cela devint un corps en l'homme et la femme, et de là sont nées toutes les transgressions, et le péché originel en l'homme et la femme. Ainsi le diable en fut le commencement en l'homme et la femme, et non Dieu. Et ainsi cette mort régna en l'homme et la femme depuis Adam par son entrée par la transgression jusqu'à ce que la loi vînt, laquelle retenait l'homme et la femme du péché, et donc de ce qui apportait la mort, afin que la mort ne règne pas. Mais la loi de Dieu fut ajoutée à cause de la transgression. Et ainsi la loi vint sur l'homme, bien qu'elle répondît au témoignage de Dieu en lui, qu'il avait transgressé. Et bien que la loi n'ait rien rendu parfait n'ôtant pas la racine du péché, mais ne s'attachant qu'aux actes, pourtant Christ, qui a détruit la mort par ses œuvres, ôte la racine du péché et détruit son commencement, à savoir son origine, le diable, qui ne demeura pas lui-même dans la vérité, et qui conduisit l'homme et la femme hors de la vérité, et ainsi à lui ressembler dans son image, et non à Dieu dans son image. C'est pourquoi Christ, qui a détruit le diable, renouvelle l'homme à nouveau dans l'image de Dieu. Et maintenant, tous les hommes qui sont dans l'image du diable, hors de la vérité, hors de l'image de Dieu, ce sont eux qui fabriquent des images, des ressemblances, des représentations des choses dans le ciel, des choses sur la terre, et des choses dans les eaux, en haut et en bas. Ainsi ceux-là seraient tous des imitateurs du Créateur et du Faiseur de toutes choses dans le ciel, sur la terre, dans la mer et dans les eaux, en haut et en bas, même s'ils ne les adorent pas, et cela est interdit à la fois d'en faire et de les adorer. C'est pourquoi, tous amis et gens, arrachez vos images, vos ressemblants, vos portraits et vos représentations des choses dans le ciel, des choses sur la terre et des choses dans les eaux, je dis ôtez-les de vos maisons, de vos murs et de vos enseignes ou d'autres lieux, afin qu'aucun de vous ne soit trouvé imitateur de son Créateur, que vous devez servir et adorer. Et ne suivez pas l'esprit oisif et paresseux qui irait inventer et fabriquer des choses à la manière d'un Créateur et d'un Faiseur, quoi que ce soit je dis qui soit dans le ciel, sur la terre. Car remarquez, tant que l'homme était dans l'image de Dieu et sa ressemblance, ainsi que la femme, il ne faisait aucune ressemblance ni image des choses dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau. Mais lorsque l'homme perdit cette image de Dieu, alors ils commencèrent à faire de telles choses, comme la lignée de Nimrod. Au temps de Ninon, Ils commencèrent à faire des images de leurs enfants et à favoriser ceux qui voulaient les adorer. Puis ensuite, ils les établirent par une loi, leurs images et leurs ressemblances devant être adorées. Et enfin, ils adorèrent des bêtes à quatre pattes, comme vous le voyez en Romains, ainsi que des reptiles, Romains 23. Ainsi, quand Moïse vint, les images furent interdites, de même que le fabricant et l'adorateur, et quand Christ vint, il ramène les gens dans l'image de Dieu et sa ressemblance, comme l'homme était au commencement. Et les Juifs qui abandonnèrent la loi de Dieu, voyez comment ils coururent après les images, les astrologues et les pronostiqueurs mensuels, ce qui était interdit par les prophètes de Dieu. Et les apôtres élevèrent les gens dans l'image de Dieu, au-dessus de vraies figures, ombres et types des Juifs, qui annonçaient Christ la substance, de même que les Juifs en leur temps avec leurs types, leurs ombres et leurs figures de Christ, devaient se tenir au-dessus de toutes les images, ressemblances et dieux païens qu'il avait faits. Mais Christ met fin aux vraies figures et aux ombres, et l'apôtre les a prêchés à bas, non seulement les images et les ressemblances des gentils, mais aussi les vrais types et figures de Christ Jésus, car il prêchait la substance Christ Jésus. Mais maintenant, depuis les jours des apôtres, êtes-vous comme des chrétiens qui ne portent que le nom? Voyez quelles images, quelles ressemblances, quelles représentations, quelle armée, quelle multitude ils ont faites, dont ils ont presque rempli toute la chrétienté. Oui, beaucoup les adorent. Des images de Dieu? Ils ont fait des images de Christ, des apôtres et des prophètes, et ceux-là, ils les appellent leurs saints, oui, et ils les ont placés dans leurs livres, leurs bibles, leurs enseignes et dans leurs maisons depuis qu'ils ont perdu l'image de Dieu telle qu'elle était au jour des apôtres parmi les chrétiens primitifs. Et ainsi, voyez quel esprit de ténèbres a établi parmi les chrétiens de telles choses qui étaient interdites par la loi et l'évangile, de sorte qu'il n'y avait aucune image avant la chute, ni ressemblance, ni représent. Ainsi en est-il parmi les chrétiens, il y a ceux qui se sont détournés de la puissance de Dieu, l'évangile. Ainsi, dans le rétablissement par Christ Jésus, il n'y a ni image, ni ressemblance, ni représentation, ce que Christ ramène dans l'image de Dieu, comme l'étaient Adam et Ève avant la chute. Ainsi il n'y avait ni image ni ressemblance avant la chute de l'homme, dans la chute il y en eut, ce qui fut interdit par la loi et par l'évangile, et depuis qu'ils ont perdu l'évangile, ils les ont rétablis, lesquelles sont maintenant interdites par l'évangile, la puissance de Dieu, qui était avant que le diable fût. C'est pourquoi, à bas et au loin toutes vos images, vos ressemblances, vos représentations, vous imitateurs de Dieu, votre faiseur et créateur, qui a fait des choses, des ressemblances des choses dans le ciel, sur la terre et dans les eaux. Je dis à bas, hors de vos maisons, et ôtez de vos enseignes par la puissance de Dieu, car lorsque celles-ci se lèvent dans vos cœurs, la nature qui s'y rapporte, qui les adore, ou les vénère, ou qui les fabrique est renversée par la puissance de Dieu, elle et eux tous, cette puissance de Dieu vous élève dans l'image de Dieu et sa ressemblance. Ainsi a dit le Seigneur Dieu, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Ex 22:4. Ici vous pouvez voir que le peuple de Dieu fut tiré d'Égypte, hors de la maison de servitude, le Seigneur dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont dans le ciel en haut, ni sur la terre en bas, ni dans les eaux sous la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Or ceux qui sont sortis de l'Égypte spirituelle, de cette maison de servitude, ne peuvent ni faire des images ou des ressemblances, ni les adorer, mais l'Égypte spirituelle fait comme l'Égypte extérieure. Vous ne vous ferez non plus ni dieu d'argent, ni dieu d'or. Or vous qui faites des dieux et des christs de pain et de vin, et qui faites vos portraits de Christ en or et en argent, vous êtes les Égyptiens spirituels et vous êtes dans la maison de servitude, ce que ceux qui sortent de votre maison de servitude et de votre Égypte spirituelle nient totalement. Et le Seigneur dit, en Ex 23:13, « Vous prendrez garde à tout ce que je vous dis, vous ne ferez point mention des noms d'autres dieux, remarquez qu'ils ne s'entendent point sortir de votre bouche. Ainsi n'écoutez aucun dieu, mais le Dieu vivant qui doit être entendu de la bouche de son peuple, et dont on ne doit même pas faire mention, et ce sont ceux qui portent son image. » Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs images en pièces et vous abattrez leurs bosquets. Ainsi, tous ceux qui vivent dans la puissance de Dieu, qui sont les vrais chrétiens dans l'image de Dieu, abattent en eux cette nature qui se rapportait aux images et aux autels extérieurs. Car les Juifs devaient abattre les païens, mais les vrais chrétiens abattent à la fois Juifs et païens par la puissance de Dieu, et cette nature appartient à l'un comme à l'autre. Vous ne vous ferez point de dieu de métal. Ici, le Seigneur l'interdit parmi les Juifs, en Exode 34:17. Est-ce donc qu'il ne l'interdit pas parmi les chrétiens? Pourquoi donc faites-vous vos images d'argent et d'or de Dieu, et des crucifixes du Christ? Ne les adorez-vous pas, ne les révériez-vous pas, ne vous prosternez-vous pas devant elles? Oui, devant les images des apôtres que vous avez faites, vous qui ne vous inclinez pas devant l'image de Dieu, et vous vous inclinez devant l'image, et vous ne vous inclinez pas devant l'image de Christ Jésus, dans laquelle étaient les prophètes et les apôtres, mais vous vous inclinez devant vos propres images, l'œuvre de vos propres mains. Ne vous tournez point vers les idoles, et ne vous faites point de dieu de fonte, je suis l'Éternel élève. 19:4. Ici le Seigneur interdit les idoles et les dieux de fonte, car il est le Seigneur qui a fait toutes choses, vous ne vous ferez point d'idoles, ni d'images taillées, vous ne dresserez point de stèles, vous ne placerez point dans votre pays de pierres sculptées pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel votre Dieu, je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos images, et je jetterai vos cadavres sur les corps de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Lev 26:1-30. Et quoi des chrétiens dressent-ils des images dans le pays, ou des idoles, ou des représentations, et se prosternent-ils devant elles, ce que Dieu avait interdit parmi les Juifs, car ne dressez-vous pas des images de croix, des images de pierre dans votre pays, ce qui est interdit par la loi de Dieu, et plus encore par l'Évangile. Dans Nombre 33:51-52, ainsi parla l'Éternel aux enfants d'Israël. Quand ils entreraient dans le pays de Canaan, ils devraient détruire toutes leurs images, briser en morceaux toutes leurs images de métal, et abattre leurs hauts lieux. Et maintenant, les Juifs qui furent désobéissants à Dieu adorent les tableaux et les images de métal, comme ces chrétiens qui sont désobéissants à l'Évangile de Christ Jésus, qui s'agenouillent devant les images de métal et les tableaux, ce qui est interdit. Si en 2 Kings 4:12-19, lorsque le Seigneur parla aux enfants d'Israël par Moïse, disant « Prenez bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune image le jour où l'Éternel vous parla à Horeb du milieu du feu, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez des images taillées, ou des représentations d'aucune figure, que ce soit la ressemblance d'un homme ou d'une femme, la ressemblance de bêtes sur la terre, la ressemblance d'oiseaux ailés, la ressemblance de tout ce qui rampe sur la terre, la ressemblance de tout ce qui… » Ici donc, il est clair que la main de Dieu est dressée contre toutes images et ressemblances de quoi que ce soit dans le ciel, sur la terre et dans les eaux, de peur qu'on ne soit poussé à les adorer et à les révérer. Mais toutes ces choses devaient être abattues par les Juifs, et quoi, faudrait-il maintenant qu'elles soient dressées par les chrétiens, et adorées et vénérées? Oui, l'image des apôtres, des anges, du Christ et de Dieu, que la puissance de Dieu et l'Évangile juste et abattent parmi les vrais chrétiens, comme la loi de Dieu l'a fait parmi les Juifs. Car pour convaincre les Juifs, Moïse dit, « Ils n'ont vu aucune image lorsque l'Éternel leur parla du milieu du feu. » En 2 Kings 5:6-9, vous pouvez voir combien il est contraire à la loi et à l'alliance de Dieu de faire des images taillées, ou des ressemblances, ou d'autres dieux de quoi que ce soit dans le ciel, sur la terre et dans les eaux. Et nul ne doit se prosterner devant eux, ni les adorer, ni les servir. Or la chrétienté ne sert-elle pas des images, des ressemblances et des représentations, et ne se prosterne-t-elle pas devant elle, qu'elle a faite de ses propres mains? Dieu interdit aux Juifs de se marier avec ceux qui faisaient des images et servaient d'autres dieux, 2 Kings 7:3-5. Car la colère de Dieu s'embrasait contre ceux qui servaient des images et d'autres dieux, et c'est pourquoi, afin d'arrêter sa colère, il ne devait ni faire d'autres dieux ni faire des images, mais les abattre et les brûler par le feu. Ainsi, la nature de tous les chrétiens qui inventent des images, des ressemblances et des représentations de Dieu, ou du Christ, ou des prophètes, ou des apôtres, doit être brûlée par le feu, et abattu par l'épée de l'Esprit pour le feu. En 2 Kings 9:7-16, vous pouvez voir que les Juifs avaient transgressé la loi de Dieu, et avaient fait un veau qu'ils avaient fondu avec les trésors que les Juifs avaient emportés d'Égypte. Prenez donc garde, vous tous chrétiens qui êtes sortis de l'Égypte spirituelle, que les trésors que vous en rapportez ne deviennent pas, à la fin, un dieu pour vous. Mais voyez ce que fit Moïse, le Seigneur l'envoya et lui dit d'aller promptement vers les enfants d'Israël, car ils ont corrompu leurs voies en faisant une image de fonte. Et le Seigneur dit donc, « C'est un peuple aux coups roides, laisse-moi, afin que je les détruis et que j'efface leur nom de dessous le ciel. Ainsi, considérez, vous tous chrétiens, n'avez-vous pas corrompu vos voies en faisant des images et des ressemblances, et vos images de fonte, pensez-vous que votre nom demeurera toujours sous le ciel? Et pensez-vous que le Seigneur n'amènera pas la destruction sur cette nature et cette sagesse qui les ont inventées? Et comme Moïse réduisit en poudre cette image de fonte que les Juifs extérieurs avaient faite pour l'adorer, Christ Jésus ne réduira-t-il pas en poudre vos images par sa puissance et sa semence, que vous avez fait, adorer et révérer? Et non seulement vos images, mais aussi la nature en vous qui les a inventées et qui les soutient, vous ne dresserez aucune stèle, c'est une chose que l'Éternel, votre Dieu, est 2 Kings 16:21-22. Avez-vous égard au Seigneur, vous qui dressez de telles choses et aimez de telles choses, n'aimez-vous pas ce que Dieu est? Et comment pourriez-vous ne pas attrister le Seigneur, et ainsi attirer sa colère sur vous? Regardez vos stèles, maudit soit l'homme qui fait quelque image taillée ou de fonte, abomination pour l'Éternel, ouvrage de la main de l'artisan, et qui la met dans un lieu secret, et que tout le peuple dise « Amen » 2 Kings 27:15. Ainsi, vous qui faites quelque image de fonte ou taillée, ou qui faites faire ces choses par quelque artisan, vous le faites faire ce qui est une abomination pour Dieu. Mais ne faites-vous pas ici vos images taillées, ne commettez-vous pas cette abomination, et ne les mettez-vous pas dans vos poches, ne les suspendez-vous pas à votre cou. N'êtes-vous pas donc ici sous une malédiction, dans ce qui est une abomination pour le Seigneur? Ainsi en 2:29-16-18, vous savez comment vous avez demeuré dans le pays d'Égypte, et comment vous avez passé par les nations au milieu desquelles vous avez passé, et vous avez vu leurs abominations et leurs idoles de bois et de pierre, d'argent et d'or qui étaient parmi eux, afin qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, qui détourne aujourd'hui son cœur de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. Ainsi, ici les Juifs pouvaient voir ces idoles de bois et de pierre, d'argent et d'or, parmi les autres nations, que le Seigneur leur laissait voir, et qui étaient interdites. Et pourtant ces Juifs iraient ensuite dresser des images de bois, de pierre, d'or et d'argent comme les autres nations, et les chrétiens feraient maintenant la même chose, ce qui est toute abomination et interdit. En Juges 17:5, Micha avait une maison de Dieu, ce qui était contraire à la loi de Dieu. Ainsi, regardez parmi beaucoup de chrétiens si leurs maisons ne sont pas pleines d'images, de tableaux et de représentations, contrairement à la loi de Dieu et à l'Évangile, et voyez comme ils étaient zélés pour les images, aussi zélés que beaucoup de chrétiens le sont. Voyez combien d'argent ils donnent pour faire des images, ces choses que Dieu avait interdites, Juges 17:1-5. Et dans Psaume 58:55-59, où vous pouvez voir les images parmi les Philistins et leurs dieux. Ainsi ceux qui font des images, chrétiens, païens et juifs, sont d'une même nature et d'un même esprit, et hors de l'image de Dieu, et ils n'ont pas à trouver faute aux païens, ni aux juifs, ni aux chrétiens qui sont faiseurs d'images, car ils sont des enfants nés naturellement d'un même mauvais naturel, tous rebelles au commandement de Dieu. Car les Philistins ne pensaient-ils pas que leurs images et leurs idoles les aidaient, et les Juifs qui transgressèrent la loi de Dieu? Et ne pensez-vous pas, vous qui êtes appelés chrétiens, que vos images, idoles et représentations vous aident et vous mettent en mémoire? Ainsi, vous avez abandonné l'Esprit de Dieu et vous avez établi un visible pour vous rappeler l'invisible Dieu. Car les Philistins n'emportèrent-ils pas la tête de Saül, ne la publièrent-ils pas dans le temple de leur idole, et ne pensèrent-ils pas ainsi que leurs images et leurs idoles leur avaient donné la victoire? Et ne faites-vous pas grand cas de vos images, et ne dites-vous pas avoir fait des miracles par vos images et vos tableaux, tout en étant appelés chrétiens? Mais David et ses hommes brûlèrent les images des Philistins. Comment pouvez-vous vous réclamer de David et chanter ses psaumes, vous qui établissez des faiseurs d'images et voudriez que d'autres fassent de même? Car David a dit, « Les idoles des païens sont d'argent et d'or, ouvrage de main d'homme, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont des bouches et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, il n'y a point de souffle en elles, et ceux qui les font leur ressemblent, ainsi en est-il de tous ceux qui se confient en elles. » Maintenant, vous tous faiseurs d'images dans la chrétienté, comment pouvez-vous échapper au jugement de David ici, ou vous en soustraire? Psaume 135:6 et 115:3-8. Notre Dieu est aux cieux, il fait tout ce qu'il veut, mais leurs idoles sont d'argent et d'or, ouvrage de main d'homme, elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas, elles ne font aucun son de leur gosier, ceux qui les font leur ressemblent, ainsi que tous ceux qui se confient en elles. Maintenant, vous tous dans la chrétienté qui êtes faiseurs d'images, de tableaux, d'idoles et de représentations, êtes-vous de meilleurs faiseurs d'images qu'on ne l'était au jour de David? Vos dieux, ou vos tableaux, ou vos images peuvent-ils parler, toucher, ou faire un son de leur gosier? Mais vous êtes comme les païens que David reprend, qui font de telles choses en nos jours, et qui servent leurs idoles, ce qui fit leur ruine au jour de David, et ainsi ce sera la vôtre. Psaume 106:18-21. Lorsqu'ils firent un veau à Horeb et adorèrent l'image de fonte, ils changèrent leur gloire en la ressemblance d'un bœuf qui mange l'herbe, et ainsi oublièrent Dieu. Et ainsi avez-vous changé votre gloire en des ressemblances, des tableaux et des images de choses, et oublié votre Créateur et votre Sauveur. Et c'est pourquoi un feu de l'Éternel s'alluma contre les Juifs dans leurs assemblées, et la flamme consuma les méchants. Et maintenant, pouvez-vous échapper? Vous ne le pouvez pas, mais vous êtes coupables de la même chose. En Psaume 97:7, confus soient tous ceux qui servent des images ou se confient en elles, et qui se glorifient dans les idoles. Ainsi, vous ne devez pas penser pouvoir subsister, vous qui vous glorifiez dans vos idoles et servez vos images taillées, avec vos tableaux, car vous êtes dans la nature qui doit être confondue. En 1 Rois 14:20-23, comment Juda fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et le provoqua plus par les péchés qu'ils avaient commis que tout ce que leurs pères avaient fait, car ils se firent des hauts lieux et des images. Et ainsi, vous qui faites des images et les dressez dans vos hauts lieux, ne provoquez-vous pas Dieu plus que vos premiers pères, les chrétiens primitifs? Or Asa, le roi, ôta les sodomites du pays et fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites, Et cet homme fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Or, s'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en ôtant images et idoles, ne faites-vous pas ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, vous qui dressez des images et des tableaux dans la chrétienté et contraignez les gens à les adorer, au point que les gens sont en danger de mort s'ils ne retirent pas leur chapeau en passant devant vos images et vos crucifixes. 1 Roi 21, 25-26 Il n'y eut personne comme Achab, qui se vendit pour faire le mal aux yeux de l'Éternel. Il commit des abominations extrêmes en suivant les idoles, selon les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Or cet Achab s'humilia, mais vous êtes-vous humiliés pour votre effusion de sang, votre méchanceté et vos abominations, en faisant des images et en les dressant dans le pays et la nation, ce qui fut une chose méchante et abominable chez Achab, et quoi, est-ce devenu maintenant une bonne chose pour vous qui vous appelez chrétiens, et vous estimez au-dessus des Juifs? Direz-vous que Christ vous a racheté pour faire toutes ces abominations, et pour faire toutes ces images, ces tableaux et ces représentations? Ne faites-vous pas injure à la foi à Christ et à la loi de Dieu en agissant ainsi. En 2 Rois 3, 1-2, Or Jéhoboam fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas comme son père Achab, ni sa mère Jézabel, toutefois il ôta les images de Baal que son père avait faites. Cela montre que vous n'êtes pas allé aussi loin que le méchant Jéhoboam, vous qui dressez des images, car vous ne devez pas faire une image de Dieu, ni du Christ, cela vous est interdit, car tu ne feras point d'image de quoi que ce soit au ciel ou sur la terre. 2 Rois 10, 23-27 Voyez comment j'ai eu détruisi les images et les idoles de Baal, les fit sortir du temple et les brûla, et quel zèle il eut contre les prêtres. Et en 2 Rois 11, comment les Juifs détruisirent la maison de Baal, ses autels et ses images, et pourtant vos prêtres, et le pape, et d'autres les dressent, vous qui vous estimez au-delà de Jéhu et dans un état au-delà de la loi, dont les œuvres sont jugées par la loi. En 2 Rois 17, 16-10, vous pouvez voir comment ils abandonnèrent tous les commandements de Dieu, et firent des images de fonte, et de veaux, et plantèrent des bosquets, et adorèrent toute l'armée des cieux, et servirent Baal, et usèrent de sorcellerie. Et ainsi, vous qu'on appelle chrétiens, n'avez-vous pas abandonné tous les commandements de Dieu, vous qui avez fait des images de fonte, des tableaux et des ressemblances, et les adorez et les vénérez? Oui, et n'avez-vous pas fait des images même de l'armée des cieux, de choses dans le ciel, de choses sur la terre et de choses dans les eaux, et persécuté d'autres parce qu'ils ne voulaient pas adorer les choses que vous avez dressées? Et ainsi vous n'êtes ni de vrais juifs, ni de vrais chrétiens, mais des transgresseurs à la fois de la loi et de l'évangile. Or Ézéchia ôta leurs hauts lieux, brisa leurs images, abattit leurs bosquets, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait pour les enfants d'Israël, lorsqu'ils lui brûlaient de l'encens. Car cet homme fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais vous n'avez pas fait ce qui est droit, vous qui dressez des images, car vous faites le mal aux yeux de Dieu, comme Achab, car il était temps de briser ce serpent d'airain lorsqu'une fois ils lui offrirent de l'encens. En 2 Rois 20, 1-12, vous pouvez voir comment Manassé, le roi d'Israël, détourna le peuple de la voie, pour faire le mal, oui, plus méchamment que les peuples païens que le Seigneur détruisit devant les enfants d'Israël, car il dressa les images des bosquets dans le temple. Et n'est-ce pas là comme beaucoup de chrétiens qui dressent des images dans leur maison à clocher? Et si Manassé détourna le peuple de la voie et le fit agir méchamment en suivant les images et en les adorant, n'avez-vous pas fait la même chose, comme Manassé, vous qui avez dressé des images et fait que les gens les suivent et les adorent? En 2 Rois 23, 14-15, voyez comment Josia, le roi, renversa leurs idoles, brisa leurs images en pièces et abattit leurs bosquets. Ici vous pouvez voir comment cet homme accomplit la loi de Dieu, et ceux qui enfreignent la loi de Dieu dressent des images, et ceux qui la gardent les abattent. Ainsi maintenant, vous qui les dressez, vous êtes des transgresseurs de la loi. Et voyez comment l'ardente colère de l'Éternel s'enflamma contre Juda, à cause de toutes les provocations par lesquelles Manassé l'avait provoqué, si bien que l'Éternel dit, « J'ôterai Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai la ville de Jérusalem. Qu'adviendra-t-il donc de vous tous, chrétiens, qui suivez les pas de Manassé ?» Ainsi en 1 Chron 16, 26, David dit, tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Ainsi quiconque fait un dieu, ou un Christ pour les gens, et des images et des représentations, détourne leur pensée de l'Éternel qui a fait le ciel, et en transgressant la loi de Dieu et leur propre état, ils sont rebelles. 2 Chron 14, 2-3, Asa détruisit les idolâtres et commanda au peuple de servir le vrai Dieu, car il brisa leurs images, leurs autels et leurs dieux étrangers, qu'ils avaient faits. Azaria en 2 Chron 15, 8 purgea son pays des idoles et dit au peuple, « Soyez forts, et que vos mains ne soient pas faibles. » Ainsi Josaphat, en 2 Chron 17, 6-9, abolit l'idolâtrie et fit enseigner au peuple la loi de Dieu contre elle. Or ceux qui gardaient la loi de Dieu, dont les cœurs étaient droits devant le Seigneur, et qui voyaient la loi parfaite de Dieu accomplie, vous jugent, vous qui vous appelez chrétiens, et avez établi ces choses qui sont condamnées par la loi de Dieu. Vos cœurs donc ne sont pas droits et sont imparfaits devant lui. En 2 Chron 23, 17, vous pouvez voir comment le peuple alla à la maison de Baal, et brisa et détruisit à la fois leurs autels et leurs images, et pourtant ceux-ci étaient appelés le peuple du Seigneur. Donc vous qui les dressez, de qui êtes-vous le peuple? En 2 Chron 24, 18, vous pouvez voir que ceux qui abandonnèrent la maison de Dieu et la loi de Dieu, et servirent les bosquets et les idoles, la colère vint sur Juda, et Dieu envoya un prophète parmi eux pour les ramener à l'Éternel, et ils le lapidèrent, Zacharie de nom, et ainsi fit Joas le roi. Et ainsi considérez, vous qui dressez des images pour détourner les gens du Seigneur, n'avez-vous pas lapidé et tué ceux qui sont venus déclarer contre vous et contre elles, car vous vous êtes vous-même écartés de la voie du Seigneur et avez entraîné d'autres, et ainsi vous persécutez ceux qui s'efforcent de vous ramener à la voie de Dieu, afin que sa colère ne vienne pas sur vous. En 2 Chron 28, le roi Achaz était idolâtre, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de Dieu, il marcha dans les voies des rois d'Israël, et fit des images de fonte à Baal, et brûla de l'encens dans la vallée du fils de Hinnon, et à la fin il brûla son fils. Ici vous pouvez voir quand les gens s'écartent de la loi de Dieu, dans quelle méchanceté ils finissent par tomber. Et ainsi, vous qui êtes appelés chrétiens, n'avez-vous pas brûlé ce que vous avez appelé les fils de l'Église, oui, ce que vous avez baptisé dans votre foi, puis, parce qu'ils ne veulent pas suivre vos voies et votre religion, ne les avez-vous pas brûlés et lapidés? Mais considérez votre fin, et celle de ceux qui ont enfreint la loi de Dieu. En 2 Chron 31, 1, vous pouvez voir comment le peuple, au jour d'Ézéchia, détruisit l'idolâtrie, et c'est pourquoi ils furent loués par Dieu et par les hommes de bien. De même Manassé, en 2 Chron 33, et l'Éternel parla à Manassé, qui avait dressé des images taillées dans la maison de Dieu, comme vous le faites dans vos maisons à clocher, avec vos tableaux et vos images. Mais Manassé ne voulut pas écouter, ni le peuple. Ainsi écouterez-vous, ou écoutez-vous, vous qui êtes faiseurs d'images et de tableaux, ou qui les dressez, les adorez et les vénérez, le Seigneur et sa loi. Mais lorsque Manassé fut dans la tribulation, dans ses entraves et ses chaînes, et qu'il fut emmené à Babylone, alors il considéra comment il avait transgressé la loi de Dieu, et ainsi certains d'entre vous le considéreront peut-être lorsque vous serez amenés dans les troubles. Mais tant que vous êtes rassasiés et gras, vous ruez contre le Seigneur et contre sa loi. Puis Manassé en vint à abolir l'idolâtrie et à ôter les images de la maison du Seigneur. Mais lorsque Dieu fera venir des troubles sur vous, peut-être certains d'entre vous y réfléchiront. Au chapitre 34, Josias purgea Jérusalem et Juda des hauts lieux, des bosquets, des images taillées et des images de fonte. Il les abattit, les réduisit en poudre et en répandit sur les tombes de ceux qui leur avaient sacrifié. Voici donc un homme de Dieu, auquel vous ne ressemblez pas, vous qui dressez aujourd'hui ce qu'il a jeté à bas. Car les yeux de l'Éternel sont sur toutes les voies de l'homme, et il voit toutes ses démarches. Il n'est point de ténèbres ni d'ombre de mort où les œuvres des ténèbres et les ouvriers d'iniquité puissent s'y cacher, mais ils les sondent toutes. Job 34, 21-22. Et vous tous, faiseurs d'images et de tableaux, qui les dressez et qui entraînez les gens avec elles, les abaissant vers la terre pour se prosterner devant l'ouvrage de vos mains, de sorte que nul ne peut dire, où est Dieu qui m'a fait, qui m'a donné des champs dans la nuit. Isaïe 2, 8, 17-19, il dit, le pays est plein d'idolâtrie, et ils adorent l'œuvre de leurs mains. Mais quand l'orgueil de l'homme sera abaissé, l'Éternel sera exalté, alors les idoles seront détruites, et ils jetteront leurs idoles d'argent et d'or qu'ils se sont faites pour les adorer, et ils entreront dans les trous des rochers, par crainte de l'Éternel et devant la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour ébranler terriblement la terre. Ainsi donc, prenez-y garde, vous chrétiens, votre terre n'est pas ébranlée, oui, vos idoles ne sont pas jetées, votre élévation et votre orgueil ne sont pas abaissés, votre pays est plein d'images. Vous ne rampez pas dans les trous des rochers pour vous cacher de la crainte de l'Éternel et de la gloire de sa majesté. En Isaïe 10, 10, le Seigneur a dit, « Comme ma main a trouvé les royaumes des idoles, puisque leurs idoles étaient au-dessus de Jérusalem et au-dessus de Samarie, ne ferai-je pas à Jérusalem et à ses idoles ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles? Et ainsi le Seigneur ne fera-t-il pas aussi aux idoles des chrétiens, aux idolâtres et aux faiseurs d'images? Car vos actions ne sont-elles pas ouvertes à son regard? Vous qui êtes faiseurs d'images et d'idoles, vous avez oublié le Seigneur de votre salut et n'avez pas souvenance du Dieu de votre force. » Isaïe 17 et 19, oracle sur l'Égypte, voici, l'Éternel est porté sur des nuées rapides, et il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte trembleront devant sa présence, et le cœur de l'Égypte se fondra au-dedans d'elle. Considérez donc, vous Égyptiens spirituels avec vos idoles et vos images, ne pensez-vous pas que le Seigneur viendra sur vous, qui êtes l'Égypte spirituelle? Et ne pensez-vous pas que votre Égypte sera ébranlée en sa présence, et que le cœur de votre Égypte se fondra au milieu de vous. Isa 27, 9, 10. Car Dieu purifiera l'iniquité de Jacob, et le fruit de son péché sera ôté, lorsqu'il rendra toutes les pierres de l'autel comme des pierres de chaux, brisées en morceaux, afin que les bosquets et les images ne subsistent point, ses villes fortes seront désertes, et son habitation sera abandonnée et laissée comme un désert. Considérez ceci, chrétiens, vous n'avez pas été purifiés, et vous avez des images, vous êtes dans vos iniquités, où vos images subsistent encore, vos villes fortifiées ne sont pas encore désertes, et vos demeures ne sont pas encore abandonnées ni rendues semblables à un désert, mais attendez que tout cela arrive. Isa 30 22 23, vous souillerez le revêtement des images d'argent et le riche ornement de vos images d'or, et vous les jetterez comme un linge souillé d'impureté, vous lui direz, hors d'ici. Alors le Seigneur donnera la pluie à votre semence, quand vous sèmerez la terre, et l'augmentation de la terre, elle sera grasse, comme de l'huile, en ce jour-là votre bétail paîtra dans de vastes pâturages. Mais vous qu'on appelle chrétien, ne seriez-vous pas prêts à tuer et à brûler ceux qui seraient prêts à souiller vos revêtements et riches ornements des images d'or, et à les jeter comme un linge souillé d'impureté, et à dire, hors d'ici. Mais cela n'est pas encore venu pour vous, il y a encore de l'adoration pour elle, vous ne les avez pas jetés, votre péché est encore sur vous, vous ne les estimez pas comme un linge souillé d'impureté, vous craignez qu'elle soit souillée, vous qui n'avez égard ni à Dieu, ni à sa loi, ni à ses prophètes. Ô enfants d'Israël, revenez, puisque vous êtes abandonnés, vous êtes enfoncés profondément dans la rébellion, en ce jour-là où vous reviendrez, vous jetterez vos idoles d'argent et d'or, que vos mains ont faites comme un péché. Ainsi, vous ne devez pas faire maintenant des images dans la chrétienté, ni des tableaux, ni des représentations. Vos mains fabriquent un péché, et vous ne le jetterez pas tant que vous ne serez pas revenu dans la voie du Seigneur, car hors de la voie de Dieu, vous ne devez attendre que colère et jugement. Isa 40, 18, 20. À qui comparez-vous Dieu? Quelle ressemblance lui dresserez-vous? L'ouvrier fond une image, et l'orfèvre l'étend en or, et l'orfèvre fait des plaques d'argent. Le pauvre choisit un bois qui ne pourrit pas, il cherche un artisan habile pour préparer une image qui ne soit pas ébranlée. Et cet esprit n'est-il pas aussi parmi vous, vous qu'on appelle chrétien, faiseur d'images de bois, d'argent, d'or et de pierre, à qui comparez-vous Dieu ou Christ, à un morceau de pain et à une coupe de vin? Vous êtes devenus plus sages dans l'Égypte spirituelle qu'il ne l'était autrefois, vous qui dressez l'image de Dieu dans vos Bibles et dans vos maisons, alors qu'aucune image ne doit ni ne peut être faite de lui, qui est esprit, et doit être adoré en esprit et en vérité. Isa 44 9 15 Tous ceux qui font des images ne sont que vanité, ce sont des choses trompeuses, elles ne profitent de rien, et ils en sont eux-mêmes témoins, ils ne voient ni ne savent, c'est pourquoi ils seront confondus, ceux qui ont fait un dieu ou une image de fonte qui ne sert à rien. Voici tous ceux qui sont de leur compagnie seront confondus, car les artisans eux-mêmes sont des hommes, qu'ils se rassemblent tous, ils craindront et seront confondus ensemble. D'une partie de l'arbre ils se chauffent, et d'une partie ils cuisent leur pain, et allument le feu, et d'une partie ils font un dieu et l'adorent, et se prosternent devant lui. Lisez tout le chapitre et voyez, n'est-ce pas comme beaucoup de ceux qu'on appelle chrétiens, et ne serez-vous pas tous confondus, vous qui êtes en compagnie des images, des tableaux et des idoles, avec ceux qui les dressent et les font? Et ne mangez-vous pas une partie du pain dont vous faites votre dieu? Et ne buvez-vous pas une partie du vin dont vous faites un Dieu et un Christ, rafraîchissant vos corps avec l'une des parts, et de l'autre faisant votre Dieu et votre Christ, que lorsque vous l'avez fait, vous adorez, et ici ne devez-vous pas tous être confondus dans ses œuvres, attendez-vous Y. Isa 46, 5, 8, dit le Seigneur, à qui me comparerez-vous, me rendrez-vous semblable, ou m'égalerez-vous, ou me mettrez-vous en comparaison, afin que je lui ressemble. Ils tirent l'or d'un sac, et pèsent l'argent à la balance, et louent l'orfèvre pour en faire un dieu, puis ils se prosternent et l'adorent, ils le portent sur leurs épaules, le transportent et le mettent en sa place, et quand ils crient vers lui, il ne peut les délivrer de la tribulation. Souvenez-vous-en et ayez honte, et remettez cela en mémoire aux transgresseurs. Considérez, vous qu'on appelle papistes, ne portez-vous pas votre hostie sur vos épaules, et ne placez-vous pas votre hostie que vous faites dans un endroit, que vous faites de pain et de vin? Et vous et votre peuple, n'adorez-vous pas le pain et le vin dont vous faites votre Dieu et votre Christ, et ne faites-vous pas des images d'or comme un vieil homme. Et le Seigneur ne vous reprend-il pas, disant, « À qui me ferez-vous semblable, ou à qui m'égalerez-vous? Quoi, le ferez-vous égal à une image? Ou à qui me comparerez-vous? Quoi, le comparerez-vous à l'homme, et le rendrez-vous semblable à lui, lui qui est esprit, et doit être adoré en esprit? Et n'avez-vous pas maintenant vos orfèvres, comme les païens, pour vous faire des dieux et des images d'or et d'argent ? Ô souvenez-vous-en et ayez honte, ô transgresseurs. Isaïe 48, 4, 5. Vous êtes obstinés, votre cou est de fer, et votre front d'airain. Dès le commencement, je vous l'ai déclaré, avant que cela arrive, je vous l'ai montré, de peur que vous ne disiez. Mes idoles les ont faites, mes images taillées et mes images de fonte les ont ordonnées. Ainsi considérez, vous aux courroides, dont le front est d'airain, vous qui êtes obstinés, qui vous fiez tant aux représentations, aux images et aux tableaux, et faites croire à votre peuple que de grandes choses sont faites par eux, ce qui est mensonge, car vous ne pouvez rien faire pour glorifier Dieu, étant dans la transgression de sa sainte loi. Isaïe 57, 3, 5. Mais vous, fil de l'enchanteresse approchée, race de l'adultère et de la prostituée, de qui vous êtes-vous moqué? Contre qui avez-vous ouvert la bouche et tiré la langue? N'êtes-vous pas des enfants rebelles, une semence mensongère, enflammée d'idoles sous tout arbre vert, etc. Considérez donc, vous qui professez le christianisme, de qui vous êtes les enfants, de quelle semence vous êtes, vous qu'on trouve enflammé d'idoles, de tableaux et d'images, et qui vous moquez béant de la bouche et tirant la langue contre son peuple. Vous ne pouvez donc pas être appelé un peuple de Dieu, car vous avez été rebelles et avez attristé le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi il est devenu votre ennemi et combattra contre vous. Isaïe 66, 3, 4. Vous pouvez voir que vos sacrifices sont comme ceux des Juifs qui transgressèrent la loi de Dieu. Votre sacrifice est comme si vous bénissiez vos idoles, comme si vous coupiez le cou d'un chien, parce que vous avez choisi vos propres voies, et que vos âmes ont pris plaisir à vos abominations. C'est pourquoi Dieu choisira votre illusion et fera venir sur vous une frayeur, et personne ne répondra. Jer 10. Tout homme est stupide dans sa science, tout fondeur est confondu par l'image taillée, car son métal fondu n'est que mensonge, et il n'y a point de souffle en elles. Elles sont vanité, œuvre d'erreur, au temps de leur visitation elles périront. Ainsi considérez, vous faiseurs d'images, bêtes dans votre connaissance, imitateurs du Créateur, qui faites des images de choses dans le ciel et sur la terre, et ainsi imitez votre Créateur, mais vous êtes trop courts, vous ne pouvez pas les faire parler, vous ne pouvez pas leur donner un souffle, ni les faire aller, ni toucher, ni voir, ni entendre, de sorte que vos œuvres ne sont que vanité. Jer 16, 20-21. Un homme se fera-t-il des dieux, qui ne sont pas des dieux? Voici, dit le Seigneur, je leur enseignerai cette fois-ci. Je leur montrerai ma main et ma puissance, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Vous devez sentir le poids de cela, vous tous faiseurs de Dieu et faiseurs de Christ, lorsque la main du Seigneur sera sur vous et sa puissance. Jer 43, 12. J'allumerai un feu, dit le Seigneur, dans la maison des dieux d'Égypte, et ils brûleront, et il les emmènera captifs, et il se revêtira du pays d'Égypte. Maintenant considérez, vous qu'on appelle chrétiens, qui êtes l'Égypte spirituelle. Ne pensez-vous pas que le Seigneur allumera un feu dans la maison de vos dieux, tableaux et images que vous adorez et vénérez, le Dieu et le Christ que vous faites de pain et de vin? Il vous fera savoir qu'il est le Seigneur, et que vous ne pouvez pas le faire, mais que lui a tout fait pour sa gloire. Jer 52, déclarez ceci parmi les nations, publiez-le, dressez un étendard, proclamez-le, ne le cachez point. Dites, Babylone est prise, belle et confondue, Mérodac est brisée, ses idoles sont confondues, et ses images sont brûlées en pièces. Et maintenant, vous qu'on appelle chrétiens, qu'en pensez-vous? Avez-vous entendu cette proclamation? Est-elle dressée parmi les païens, et non parmi vous? L'étendard n'est-il pas encore levé? Cela vous est-il encore caché? Vos images ne sont pas encore brûlées, ni vos idoles encore confondues. Et dans le même chapitre, la sécheresse est sur ses eaux, et elles seront taries car c'est un pays d'images taillées. Que voyez-vous? Cela étaient les Juifs et les païens, et pourtant vous, qu'on appelle chrétiens, n'êtes-vous pas en communion avec eux? Votre pays n'est-il pas plein d'images, et ne vous entichez-vous pas de vos idoles, tableaux et représentations? Il y a parmi vous une sécheresse des eaux de la vie, et c'est pourquoi ne vous confiez-vous pas à vos images, ne vous inclinez-vous pas et ne priez-vous pas devant elles? En Ézéchie 3, 6, qu'est-ce qui amena l'épée, la famine et la peste sur Israël? N'était-ce pas à cause de l'idolâtrie et de leurs images qui auraient dû être brisées et renversées? N'y eut-il pas des hommes tués sur leurs idoles, eux qui imitaient les voix des païens, comme certains qu'on appelle chrétiens? Et Dieu n'amena-t-il pas les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles? Ne dispersa-t-il pas leur cervelle devant leurs autels? Et ne leur fit-il pas savoir qu'il était le Seigneur? Et à cause de ces choses, n'amena-t-il pas famine et peste sur eux? Comment donc pouvez-vous penser échapper? Ézéch 7, 18. Ils firent des images de leurs abominations et de leurs idoles, et cela n'apporta-t-il pas la honte sur leur visage et la calvitie sur leur tête? Et ne livra-t-il pas leur pays aux mains des étrangers? Mais vous, papistes, n'en êtes pas encore pleinement venus là. Voyez ce que faisaient dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, en Ézéch 8, 12, chacun dans la chambre de ses images. Et ainsi, vous qu'on appelle chrétiens, voyez ce que vous avez fait dans les ténèbres, dans les chambres de vos images, car vous avez été des ouvriers hors de la lumière, et ainsi vos œuvres sont pour la condamnation. En Ésaïe 14, Fils de l'homme, ces hommes ont dressé des idoles dans leur cœur et ont mis devant leur face une pierre d'achoppement d'iniquité. Moi, l'Éternel, je répondrai à celui qui vient selon la multitude de ses idoles. C'est pourquoi vous qui pensez venir à Dieu par vos tableaux, vos croix, vos crucifixes, vos représentations, vos dieux et vos christs que vous avez faits, le Seigneur vous répondra par sa colère. Détournez donc vos faces de vos abominations, car vous vous êtes tous éloignés de Dieu par votre idolâtrie. Ésaïe 18, 12, 13. Vous pouvez voir que ceux qui levaient les yeux vers les idoles étaient repris. Ainsi, chrétiens, regardez en vous-même, vers quoi levez-vous les yeux? Vers la multitude de vos idoles, images et tableaux. En Ésaïe 20, 5, 8, 27, 33, voyez comment le Seigneur fit sortir son peuple du pays d'Égypte vers un pays où coulant le lait et le miel. Et pourtant, après cela, comment ils se révoltèrent contre Dieu et suivirent les idoles d'Égypte? Et la colère vint sur eux comme elle vint sur les Égyptiens, ce que vous n'éviterez pas, vous qui suivez maintenant de telles choses dans l'Égypte spirituelle. Et ne vous souillez pas en observant la manière des autres nations avec leurs idoles. Ainsi qu'on en finisse avec tous les faiseurs d'images et les adorateurs d'images, car le faiseur et eux tous doivent être confondus. Ésaïe 21, 21, le roi de Babylone se tenait au carrefour, à la tête des deux chemins, consultant par divination, et il rendait ses flèches brillantes. Il consulta les idoles et regarda dans le foie. Considérez donc, vous qui maintenant priez devant des images et aux idoles, et à vos tableaux, vous êtes dans l'esprit de Nabuchodonosor, qui persécutera les autres parce qu'ils ne veulent pas se prosterner devant vos tableaux et vos images. Ésaïe 22, 3, 4 et 23, vous avez offensé par le sang que vous avez versé, et vous avez souillé vos pieds avec les idoles que vous avez faites, ainsi vous avez fait approcher vos jours, c'est pourquoi je t'ai rendu un opprobre pour les païens et une moquerie pour tous les pays. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur Dieu, la ville répand le sang au milieu d'elle, afin que son temps vienne, et elle fait des idoles contre elle-même. Et ainsi elle s'est prostituée avec elle, avec tous ceux qui étaient des hommes choisis d'Ashur, et ils se sont souillés avec toutes ses idoles. Considérez donc ceci, n'avez-vous pas offensé par le sang et versé le sang dans vos villes? Oui, et vous êtes-vous souillés par vos idoles? Oui, vous tous, fabricants d'idoles dans la chrétienté, vous avez suivi les voies des païens, comme les anciens romains qui faisaient des images. Et Simon le mage, n'était-il pas faiseur d'images et introducteur de la simonie à Rome? Et comment pensez-vous échapper à la colère de Dieu? Vous qui êtes si peu semblables à ses saints et à son peuple. Et vous, vos ancêtres, qu'attendez-vous sinon nudité et honte, vous qui vous êtes prostitués après les païens et vous êtes souillés d'idoles, de tableaux et d'images? Car lorsque l'Israël d'autrefois abandonna Dieu, ils devinrent cruels et endurcis avec leurs idoles et leurs images, et à la fin ils immolèrent leurs enfants à leurs idoles, en sacrifice, et ainsi vous avez sacrifié d'autres qui ne voulaient pas se prosterner devant vos idoles, et vos images, et votre hostie que vous avez faite. Ésaïe 30, 11, 13. Ainsi a dit le Seigneur Dieu, je détruirai aussi les idoles, je ferai cesser leurs idoles, je rendrai leur pays désert, je ferai venir sur eux un peuple terrible, une nation terrible. Ainsi, lorsque les enfants d'Israël suivirent les images, les tableaux et les idoles, il fit venir sur eux les Égyptiens et Nabuchodonosor, et alors ils eurent assez d'images et d'idoles, car le Seigneur fit venir sur eux ce qui était de même nature que celle dans laquelle ils étaient eux-mêmes lorsqu'ils avaient abandonné Dieu. Et ainsi n'attendez-vous pas, vous qu'on appelle chrétiens, vous qui prenez plaisir aux tableaux, aux images et aux idoles, que le Seigneur en son temps fasse venir sur vous ce que vous appelez païens, car vous vous êtes détournés de Dieu et du Christ pour entrer dans la nature des païens. Et alors vous pourrez crier à vos tableaux, à vos idoles et à vos images. Car lorsque votre peuple cria en Irlande à Patrick, et à vos images et à vos tableaux, vous voyez qu'il n'y eut personne capable de les délivrer. Ainsi vous avez abusé le peuple et l'avez maintenu en servitude envers vos tableaux, vos images et vos idoles, dont le Seigneur vous récompensera. Donc faire des images et des idoles est une abomination, c'est ce qui souille les gens, c'est une transgression de la loi de Dieu, celui qui les invente ou ordonne qu'on les fasse ou qu'on les adore est comme une bête. Ésaïe 44, les Lévites qui se sont éloignés de moi, dit le Seigneur, quand Israël s'égara loin de moi après ses idoles, porteront leur iniquité. Considérez maintenant, vous qui vous appelez chrétiens, vous vous êtes éloignés, vous tous prêtres, papes, cardinaux, jésuites, comme l'Israël d'autrefois et les Lévites, vous vous êtes éloignés du Seigneur, vous vous êtes égarés après les idoles, les images et les tableaux, et vous devez porter votre iniquité. DN 3, 3, 11, 29, où Nabuchodonosor dressa une image d'or et fit que tous, petits et grands, l'adorent, au son de la flûte et des instruments de musique, tous devaient tomber et adorer l'image qu'il avait dressée. Mais les trois enfants Shadrach, Meshach et Abednego, qui craignaient le Seigneur et gardaient leur religion pure, ne purent suivre la religion de Nabuchodonosor, mais transgressèrent et n'obéirent pas à ses commandements en ne se prosternant pas pour adorer ce qu'il avait dressé. Ainsi maintenant, vous papistes, n'avez-vous pas fait des images, des tableaux et des hosties, Et ne commandez-vous pas au peuple de se prosterner, oui, d'ôter leurs chapeaux au son de la cloche de l'Ave Maria, sous peine de tomber sous votre loi. Et ainsi vous êtes trouvés dans l'esprit de Nabuchodonosor, non dans celui du Christ, ni des prophètes, ni des apôtres. Os 4, 17-19, ainsi a dit le Seigneur, Éphraïm est attaché aux idoles, laissez-le, et ils auront honte de leurs sacrifices. Considérez maintenant, vous qu'on appelle chrétiens, qui avez adoré des images et des idoles, avez-vous été laissés tranquilles pendant plusieurs centaines d'années, et pourtant vous n'avez pas honte de vos sacrifices, mais ceux qui sont sortis de chez vous, eux le sont. Et quand Israël oublia Dieu, son Créateur, il bâtit des temples. Israël a rejeté ce qui est bon, de leur argent et de leur or ils se sont fait des idoles. Maintenant donc, ils seront détruits, et l'ennemi le poursuivra. Ainsi donc, considérez ces choses, vous qu'on appelle chrétiens, vous qui avez fait des idoles de votre argent et de votre or. Ne pensez-vous pas que l'ennemi vous poursuivra, vous qui rejetez ce qui est bon, vous qui avez oublié votre Créateur et bâti beaucoup de temples, sans tenir compte que vos corps sont les temples du Dieu vivant. Os 10:1-2 Israël est une vigne vide, ils ont fait de belles images, leur cœur est partagé, maintenant ils seront reconnus coupables, il renversera leurs autels, il détruira leurs images. Ainsi considérez, vous tous qu'on appelle chrétiens, quelle vigne vide vous est, et sauvage, vous qui vous êtes fait de belles images, ô comme vous vous en délectez, et de leurs tableaux, vous êtes reconnus coupables devant Dieu qui les renversera. Os 13:1-2 Quand Éphraïm parlait, on tremblait, il s'éleva en Israël, mais il a péché par Baal, et il est mort. Et ils ont péché de plus en plus, et se sont fait des images de métal fondu de leur argent, et des idoles selon leur propre intelligence, elles sont toute l'œuvre des artisans. Considérez donc, vous qui vous appelez chrétiens, n'êtes-vous pas morts, vous qui faites ces images fondues et ces idoles d'argent, d'or, de pierre, de bois, etc. Et ne baisez-vous pas vos tableaux et vos images. Ainsi si Éphraïm est mort, êtes-vous vivant, vous qui faites cela, et suivez vos artisans que vous mettez à l'ouvrage, et adorez leurs œuvres. C'est une abomination pour Dieu, qui est et qui sera adoré en esprit et en vérité. Os 14:8 Éphraïm dira, « Qu'ai-je encore à faire avec les idoles ? Mais vous qui vous appelez chrétiens, vous ne l'avez pas encore dit, et c'est pourquoi vous êtes pire qu'Éphraïm. » Am 5, où se trouve une lamentation sur la captivité d'Israël, qui suivit des images que suivaient les païens, se faisant des dieux à leur ressemblance, pratique qui a été suivie par ceux qui se disent chrétiens, qui ont fait des dieux et des christs des faiseurs pour le peuple. Ce qui est une abomination et qui, par de telles actions, ont détourné les gens du vrai Christ, qui est le chemin vers le vrai Dieu. Mi 1-7 Toutes les images taillées seront brisées, et tous leurs dons seront brûlés au feu, et toutes les idoles seront détruites, car elle les a amassées du salaire d'une prostituée. Comment pouvez-vous donc reconnaître ce prophète et garder vos images et vos idoles sans qu'elles soient brûlées et détruites? Car c'est l'œuvre de l'esprit prostitué, éloigné de Dieu, de faire de telles choses, et non celle de l'épouse du Christ. Mi 5-13, tes idoles seront retranchées, et tes images du milieu de toi, et tu n'adoreras plus l'œuvre de tes mains. Ce prophète vous atteindra, vous qu'on appelle chrétien, qui vous trouvez dans de telles pratiques, et alors vous serez séparés de vos amants. Naïn, le Seigneur a donné un ordre te concernant, je retrancherai les images taillées et les images de métal fondu, et je ferai de toi ta tombe, car tu es vil. Ainsi considérez, vous chrétiens, avec toutes vos images et vos tableaux, qui sont devenus votre tombe, car vous êtes vils, prenez donc garde au commandement du Seigneur, afin de sortir de votre vilnie, abattez vos tableaux et vos images, et obéissez au commandement du Seigneur. À 2:18-20, à quoi sert l'image? Car celui qui l'a faite a fait une image, et un maître de mensonge, et celui qui l'a faite se confie en elle quand il fait une idole muette. Malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, et à la pierre muette, lève-toi, elle t'enseignera, car voici, elle est recouverte d'or et d'argent, et il n'y a en elle aucun souffle. Le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et maintenant, vous papistes et chrétiens, vous dites que vos tableaux et vos images que vous faites et vos représentations profitent au peuple, et sont les calendriers des laïcs, ainsi vos docteurs sont des menteurs, contrairement au commandement de Dieu, qui a dit, cela ne profite pas. Dans vos pierres et votre bois, que vous peignez d'or, il n'y a aucun souffle, qu'on en finisse avec toutes ces sottises. Zadis 2. Assurément, dit le Seigneur, leurs idoles ont parlé vanité, et les devins ont vu un mensonge, et les songeurs ont dit une chose vaine. Considérez ceci maintenant, vous qui vous appelez chrétiens, vous tous, devins qui avez dressé des idoles, qui sont vanité, vous qui avez vu un mensonge, et dont le rêve que vous avez raconté n'est qu'une chose vaine, et ne dites-vous pas au peuple que vos représentations et vos images leur profiteront. Zat 13:1-2 Le Seigneur a dit qu'il ouvrira une fontaine pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté, Et en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, je retrancherai du pays le nom des idoles, et elles ne seront plus rappelées, et je ferai sortir du pays l'impur. Considérez ceci maintenant, vous papistes et autres, cette fontaine ne vous est pas encore ouverte pour le péché et pour l'impureté, car vos images et vos idoles se dressent encore dans votre pays, soutenues par votre esprit impur. Car lorsque cette fontaine sera ouverte, votre esprit impur qui soutenait vos idoles devra sortir du pays, et alors vous reconnaîtrez la prophétie. À 2, 8, 18, 20, vous avez dépouillé les nations par vos images, et par de faux dieux et de faux christs. Cela peut bien s'appliquer à vous qui vous appelez chrétiens, vous qui suivez vos tableaux et vos images, les dieux que vous avez faits, car Israël s'est écarté des ordonnances du Seigneur lorsqu'il s'est tourné vers les images, les idoles et d'autres dieux, comme vous, chrétiens, vous êtes sortis des ordonnances de Dieu. Voyez dans Acts 7, 38, 41, 57, 58 comment Étienne reprit les Juifs d'avoir fait un veau et d'avoir offert des sacrifices aux idoles, œuvre de leurs propres mains, comment Dieu se détourna d'eux, et comment ils servirent l'armée du ciel. Car qu'y a-t-il dans le ciel ou sur la terre dont vous n'ayez fait des tableaux et des images? Ainsi vous êtes ici jugés par Étienne, que les Juifs lapidèrent à mort, la même chose, vous la feriez à ceux qui crieraient contre vous. Les tableaux, images et représentations que vous avez faits se trouvent dans le même esprit de transgression que les Juifs. L'apôtre ordonne, en Acts 15, 20, que les gentils convertis s'abstiennent des idoles et de la fornication. Considérez donc, vous qu'on appelle chrétiens, vous êtes ici jugés par l'apôtre, vous qui établissez des maisons de prostitution et suivez les idoles et les images, et ne vous en abstenez pas, vous êtes des transgresseurs de l'ordonnance des apôtres. Acts 19, là vous pouvez voir vos propres frères, quelle fureur ils avaient dans la ville d'Éphèse, eux qui adoraient Diane, et quel vacarme firent ces fabricants d'images contre l'apôtre. Ainsi regardez parmi vous-mêmes quel vacarme vous, artisans, faites maintenant contre les ministres de l'Esprit, qui prêchent et dénoncent vos images et vos idoles. Ainsi les gentils devaient s'abstenir des idoles et de la fornication, comme auparavant, ce qui montre que vous êtes dans la nature des gentils, non convertis, vous qui observez ces choses et suivez ce qu'ils faisaient dans leur état non converti. RM 1, 21, vous pouvez voir vos anciens frères, lorsqu'ils connaissaient Dieu, ils ne le glorifiaient pas comme Dieu, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et servi la créature plus que le Créateur, qui est Dieu béni éternellement. Et ainsi, telle est maintenant votre condition, vous qui vous prétendez sages mais êtes insensés, car quoi, vous et votre peuple ne servez-vous pas les images, les tableaux et les représentations plus que le Créateur? Car vous n'en êtes pas venus jusqu'à abhorrer les idoles. Et bien que vous disiez en parole que vous le faites, pourtant vous, professant le christianisme et faisant comme les païens, êtes pire qu'eux. 1 Cor 8, certains se font scrupule au sujet d'une idole, une idole n'est rien. Et les Corinthiens ne devaient pas manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et ainsi que sont tous vos sacrifices sinon à des idoles, à des images, et à votre Christ que vous fabriquez. Donc si une idole n'est rien, alors rien ne peut vous faire aucun bien, et ce que vous lui sacrifiez et offrez est offert à rien. Et ainsi tout en vient à être confondu. C'est pourquoi, comme en 1 Cor 10, 14, 19, 20, 28, tant celui qui sacrifie que l'idole ne sont bons à rien sinon pour le jugement. Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et l'idole? 2 Cor 6, 16. Ainsi si vous étiez le temple de Dieu, vous qu'on appelle chrétien, il n'y aurait aucun accord avec vos tableaux, vos images et vos idoles, mais cela montre que vous avez accord avec eux, donc vous n'êtes pas des temples de Dieu. 1 Thé 1, 9. Il est manifeste comment ils se sont tournés des idoles pour servir le Dieu vivant, mais maintenant il est manifeste comment ils se sont détournés du Dieu vivant pour servir les images, les tableaux, les idoles et les représentations, ce qui indique que vous êtes dans un état non converti. 1 Jean 5, 21, l'apôtre a dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles » dans son épître générale à l'Église, mais vous qui vous appelez chrétiens avez oublié ce commandement, ou du moins l'avez mis de côté, et vous commandez à votre peuple de s'attacher à vos images, à vos tableaux, à vos idoles et à vos représentations, et vous les appelez les livres des laïcs. Et ainsi vous avez tout à fait dégénéré par rapport à la doctrine et au commandement de Jean, lui qui ordonne à votre peuple de se garder des idoles, tandis que vous lui... Apte 2, 14. Là vous pouvez voir qu'il y en avait qui mettaient des pierres d'achoppement, qui enseignaient la doctrine de Balaam, et de manger des viandes sacrifiées aux idoles, et de commettre la fornication. Considérez donc, n'est-ce pas là la condition de vous, papistes, n'êtes-vous pas dans la récompense de Balaam? N'êtes-vous pas dans vos idoles et votre fornication, sinon que faites-vous de toutes ces maisons de débauche? Apte 9, 21. Vous voyez des gens si endurcis qu'ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, eux qui adoraient le diable, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne pouvaient ni entendre, ni voir, ni marcher, et sur eux Dieu fit venir ses plaies, et ils ne se repentirent pas de leur sorcellerie, de leur meurtre, de leur fornication et de leur vol. Ainsi, regardez dans votre propre nid, et vous pourrez y trouver tous ces fruits, et il serait bon que cela n'advienne pas, que beaucoup périssent dans ces fruits et ne se repentent pas. Ainsi, vous qui avez suivi la bête, comme en Apes 13:16, et son image, et qui a fait que tous, petits et grands, pauvres et riches, esclaves et libres, reçoivent sa marque, etc. Vous les tenez ainsi éloignés de la marque et de l'image de Dieu pour suivre vos images. Considérez donc quelle en sera la fin. Si la bête, le dragon, la prostituée et le faux prophète doivent être jetés dans le feu qui brûle avec du soufre, ce qui a été le fondement de toutes ces images, idoles, tableaux et représentations qui sont hors de l'image de Dieu, vous qui les avez faites, qui les avez dressées, qui avez commandé qu'on les fasse, qu'on les adore, vous êtes sortis, dis-je, de l'image de Dieu pour entrer dans l'image du diable. Salomon, en prenant pour femme des étrangères d'entre les païens, transgressa la loi du mariage instituée par Moïse, dans laquelle loi Dieu défendait d'épouser des nations étrangères. Et avant tout cela, il lui arriva de pécher et de faillir dans l'observation de la loi, lorsqu'il fit des figures de bêtes pour soutenir les vases appelés la grande mère, et celle de lion, qu'il fit placer auprès de son trône. George Fox, retour à l'index de la doctrine, livre de doctrine 4, suite. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.